7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, merci de nous faire confiance. Nous sommes le vendredi 22 mars et nous sommes tous derrière les Bleus ce soir. En Moldavie, on va retrouver nos champions du monde. Ils entament leur course pour la qualification à l'Euro 2020. C'est l'information de la nuit du nouveau sur le calendrier du Brexit. À 8 jours de la date couperet, l'Europe offre 2 options de report à Londres. Les détails de ce rebondissement avec notre correspondante à Bruxelles dès le journal de 7h avec Hélène Zelani. Tension maximale à la veille d'un nouveau samedi des Gilets jaunes. Les Champs-Élysées redoutent une nouvelle journée de chaos. Le ministre de l'Intérieur Castaner n'a plus droit à l'erreur. Dossier complet ce matin sur Europe 1 et l'édito de Jean-Michel Apathy à 7h40. Gratiné, m'a-t-on dit. 7h45, je reçois l'écrivaine Delphine de Vigan pour son nouveau roman Les Gratitudes. Elle nous parle d'un thème qui nous touche tous, dire les choses importantes, exprimer à ceux qu'on aime avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour le programme. On est ensemble jusqu'à 9h. Vous êtes prêts? On commence? Bon réveil à tous sur Europe 1.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi 22 mars. Très bon réveil, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par Hélène Zelani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Pas de sortie du Royaume-Uni dans une semaine comme prévu, ça c'est sûr. Désormais, l'Union propose 2 options pour un report du Brexit. Explication limpide d'Isabelle Lory à suivre. Quelle tournure prendra la 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes? Demain, le gouvernement se veut intransigeant. Plusieurs mesures d'interdiction sont prises dans toute la France. Et puis tisane détox, jus de fruits énergisants et autres biscuits diététiques. Tout ça, c'est du marketing. L'ONG Foodwatch dénonce les arnaques à l'étiquette.
À 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National aux Européennes.
Europe 1. Si je vous dis Chisinau, ça ne vous parle sans doute pas, sauf si vous êtes un as de la géographie. C'est pourtant dans la capitale de la Moldavie que jouent ce soir nos Bleus, champions du monde. Coup d'envoi de la campagne de qualification pour l'Euro 2020. Sur le papier, ça paraît joué d'avance, Jérôme Lacroix.
Rencontre élevée en Moldavie au rang de match du siècle. Les mots du sélectionneur moldave. Pourtant, le foot ne fait pas vraiment monter la température au sein de la jeune République. Classée 170e mondiale entre les îles Fidji et Sainte-Lucie, c'est la 5e voire 6e division mondiale. Malgré tout, le modeste stade Zimbrou sera plein ce soir. 10 000 Moldaves, 500 fans français attendus. Les Bleus qui ont découvert l'enceinte hier en fin de journée d'entraînement. Vous entendez? Ça rigolait, mais pas un joueur toutefois ne verse dans le complexe de supériorité. Hugo Lloris, le capitaine.
À nous de nous faire violence, à nous de ne pas tomber dans le piège, à nous d'être sérieux, de faire le match qu'il faut.
Et le match qu'il faut, ça passera par les bouger. Ces joueurs moldaves qui, face aux attaquants français, s'attendent à être assignés à résistance. Le jeune et remuant Kingsley Coman du Bayern Munich pourrait ainsi être présent dès le coup d'envoi. Il est en forme. L'un des rares non-champions du monde présent ce soir parce que ce groupe mondialiste, il doit rester stable, uni. C'était le cas hier soir. À l'hôtel des Bleus, la fête pour qui?
Jésus.
Griezmann, 28 ans hier soir.
Jérôme Lacroix, Moldavie, France, coup d'envoi à 20h45. Et on suivra aussi Cristiano Ronaldo et le Portugal, champion d'Europe, qui reçoit l'Ukraine à Lisbonne. Alors, il est 7h01.
Comment sortir de l'impasse sur le Brexit? That's the question.
Oui, l'Union européenne a tranché hier soir en proposant à Londres 2 options qui vont évidemment au-delà de la date initialement prévue le 29 mars. Isabelle Horry.
C'est à peu près la seule certitude à l'issue de ce sommet. Dans une semaine, le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Union européenne. Qu'en sortira-t-il finalement? Eh bien là, ça devient tout de suite plus compliqué. Hier, les 27 ont refusé la demande de Theresa May, qui voulait un délai de 3 mois. À la place, ils lui ont concocté une sorte de parcours fléché à choix multiples. Selon ce qui se passera à Londres dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le Brexit aura lieu le 12 avril, le 22 mai ou peut-être beaucoup plus tard. En fait, les Européens ont pris le contrôle de l'agenda. Ils veulent que les Britanniques assument les conséquences de leur choix. Sur le continent, on n'a pas envie de porter le chapeau si ça se termine mal. Certains ont donc voulu donner encore une chance à Theresa May. Ils espèrent qu'elle arrivera à convaincre son Parlement qu'il faut trouver une porte de sortie. Côté français, on n'y croit pas vraiment, mais dans l'entourage du président, on explique que l'idée d'un report, c'est que dans 10 ans, quand on regardera cette période, les Européens pourront se dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et pour l'instant, pas de date pour un nouveau vote. Ce sera peut-être lundi ou mardi. En tout cas, selon un sondage publié ce matin à Londres, le Brexit affecte psychologiquement 4 Britanniques sur 10. Ils sont une majorité à ressentir de l'impuissance. Pour d'autres, c'est plutôt de la colère ou de l'inquiétude.
Tout faire pour éviter des images de violence comme samedi dernier sur les Champs-Élysées.
Oui, le nouveau préfet de Paris présente ce matin à Christophe Castaner le dispositif de maintien de l'ordre prévu pour demain, 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Les secteurs de la place de l'Étoile, de la Concorde et bien sûr des Champs-Élysées seront interdits de manifestation. 135 € à payer pour les contrevenants. Malgré tout, les professionnels du tourisme sont inquiets, d'autant que des palissades recouvrent encore la moitié des vitrines de la plus belle avenue du monde. Jeanne Bergaoui est montée dans un bus touristique pour savoir ce que les étrangers en pensaient.
Les gilets jaunes et les saccages de magasins, tous ont vu les images à la télé américaine, brésilienne, japonaise. Mais pas de quoi freiner ces touristes qui adaptent parfois leurs dates de vacances pour éviter tout problème, comme Joyce, venue d'Australie.
On a entendu que les manifestations ont lieu plutôt le week-end. On savait donc qu'on serait en sécurité parce que nous sommes là en semaine. Mais c'est vrai que c'est intéressant de remonter les Champs-Élysées et de voir tout ce bazar, ces graffitis, ces magasins barricadés. C'est honteux parce que c'est une si belle ville. Ça ne montre pas Paris sous son plus beau jour.
Après la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame, les touristes découvrent enfin les Champs-Élysées. Sur le toit du bus à Impérial, Chris, un Américain, photographie autant l'Arc de Triomphe que les vitrines vandalisées.
Regardez, il y a des magasins avec des palissades. Là, c'est pareil. On entend tellement parler de Paris, à quel point tout est beau. Puis quand vous voyez toutes ces vitrines barricadées, c'est un peu décevant. Mais bon, je comprends les manifestations, ils ressentent de l'injustice, ils font ce qu'ils ont à faire, quoi.
Dans le bus, pas un mot sur les dégradations encore visibles sur les Champs-Élysées. Le commentaire audio en 11 langues n'a pas été modifié depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
Jeanne Bergaoui, des arrêtés préfectoraux d'interdiction de manifester sont également pris pour certains quartiers de Nice, Bordeaux ou Marseille. Les Gilets jaunes ont aussi lancé des appels à défiler à Toulouse, Montpellier ou encore à La Rochelle. Des tiraillements entre le Sénat et l'Élysée. Le Sénat qui a décidé hier de saisir la justice sur les cas d'Alexandre Benalla et de 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe a boudé les questions au gouvernement. « Je ne suis en guerre contre personne », affirme Gérard Larcher, le président du Sénat.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec vous, Hélène Zellani. Nous retournerons dans cette maison de retraite du Val-de-Marne où un aide-soignant a violenté une pensionnaire et il est jugé aujourd'hui. A tout de suite, bon réveil.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zellani. C'est une affaire qui en dit long sur les violences infligées aux personnes âgées dans certains EHPAD.
Oui, violences psychologiques mais aussi physiques. On se souvient de ces images terribles dans lesquelles on voit un aide-soignant gifler, insulter une dame de 98 ans qui le supplie d'arrêter. Cet homme, il comparaît aujourd'hui en correctionnel. Victor Delande s'est rendu dans l'EHPAD d'Arcueil, dans le Val-de-Marne, où l'aide-soignant a sévi.
Sonia vient voir sa marraine de 96 ans tous les jours. Elle fait très attention aux gestes des aides-soignants et pour elle, rien à redire dans cet établissement.
Vous savez, c'est une maison vraiment bien, bien, bien. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place, comme vous voyez, parce que si on trouve quelque chose de bien, il n'y a pas beaucoup de place. Hein.
Lucienne, elle, rend visite à sa mère de 94 ans. Elle a assisté à une réunion de la direction de l'EHPAD 2 jours après les faits. Elle a été rassurée.
Pour éviter qu'il y ait une trop mauvaise réputation, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus présents, parce que c'est pas toujours facile pour eux non plus, quoi.
Selon nos informations, la direction de l'établissement a réclamé la présence d'une troisième personne pour s'occuper des 85 résidents la nuit. En vain pour le moment, car pour l'avocat du gérant de l'EHPAD, ADF Résidence, cette affaire n'a rien à voir avec un manque de moyens.
C'est une responsabilité personnelle. Et à aucun moment, le fait qu'il y ait eu 2 personnes ou 3 personnes n'aurait pu éviter une agression qu'aurait pu se passer dans le métro, qu'aurait pu se passer dans la rue.
L'aide-soignant risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Victor Delande.
La vieillesse, la transmission, le regard qu'on porte sur nos aînés, voilà des thèmes sur lesquels on reviendra avec mon invité, la romancière Delphine de Vigan à 7h45 sur Europe 1 pour son roman Les Gratitudes.
2 minutes de silence dans toute la Nouvelle-Zélande, hommage national aux 50 victimes de l'attentat contre 2 mosquées il y a une semaine. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la ville de Christchurch et dans tout le pays, de nombreuses femmes ont porté le foulard pour marquer leur solidarité avec la communauté musulmane.
Attention, ne vous laissez pas abuser par les appellations mensongères qui fleurissent parfois sur les emballages de nombreux produits.
Oui, céréales fitness, margarine qui fait baisser le taux de cholestérol et autres tisanes bonne nuit, tout ça c'est du marketing. C'est l'ONG Foodwatch qui lance une campagne contre les arnaques à l'étiquette. Tous ces produits vendus en supermarché qui vont soi-disant améliorer notre santé, l'or d'Autriche.
Des infusions de la marque Elephant présentées comme minceurs ou détox parce qu'elles sont composées de queues de cerises. Des smoothies de la marque Innocent portant l'étiquette antioxydant ou énergisant, mais qui sont presque aussi sucrées que du Coca-Cola. Toutes ces étiquettes sont mensongères, dénonce Megan Gorbani de l'association Foodwatch.
Les industriels, pour la plupart, nous disent qu'ils sont dans la légalité, et c'est souvent l'argument qu'ils utilisent, qui pour nous ne veut pas dire qu'ils sont dans la légitimité de ce qu'ils font. Ils nous disent que c'est à la Commission européenne de décider, aux autorités, et donc qu'ils continueront à les utiliser.
L'ONG a même déposé plainte contre le site biologiquement.com qui présente certains compléments alimentaires comme ayant des vertus anti-cancer, une mention interdite par la loi, explique Karine Jacquemart, la directrice générale de l'association.
Faire croire aux gens, et malheureusement des gens souvent vulnérables, puisque ça peut être des gens atteints d'un cancer, de leur faire croire que grâce à ces compléments alimentaires, ils vont pouvoir prévenir le cancer ou même le guérir. Ça c'est grave parce que c'est illégal et c'est dangereux.
Et souvent sur internet comme en supermarché, ces produits présentés comme bénéfiques pour la santé coûtent plus cher que les produits classiques.
L'or d'Autriche est dans son enquête Foodwatch a également découvert des perles comme un thé qui promet la joie de vivre.
Mais vous l'avez.
Vous êtes
à la tisane dès 3h du matin avec vos amandes. Tout est délicat et tout est sain en fait. Merci Hélène Zélie.
Et si vous souhaitez réagir justement sur ce sujet, envoyez-nous vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10. Nico, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot.
Bon, Martin, pour bien finir la semaine, vous êtes où ce matin ? Bonjour.
Ah bonjour Nikos. Alors écoutez, ce matin, je suis dans un lieu, vous entendez, c'est très très calme. Je suis dans un village qui est devenu un lieu de pèlerinage, presque un lieu de recueillement, où des Français d'un peu partout viennent chaque semaine rendre hommage à un héros, un homme qui, il y a un an, a sauvé des vies en donnant la sienne. Je me trouve à Ferrals-les-Corbières, commune de l'Aude, où repose le colonel Arnaud Beltrame. Ça fera donc un an ce week-end qu'il a été tué dans l'attaque terroriste de Trèbes. Et en me rendant devant sa sépulture, j'ai rencontré Viviane, bretonne, comme le colonel. Elle déposait au pied de la tombe, sur les graviers, une plaque avec un dessin.
C'est son cadeau d'anniversaire de son départ. J'ai fait ça pour lui.
Ça représente quoi ?
Un couple de Bretons et le drapeau breton de l'autre côté. C'est comme s'il faisait partie de la famille. Comme si c'était la tombe d'un parent. Personnellement, j'ai besoin de temps en temps de venir me recueillir sur sa tombe.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là ?
Ça me fait un poids sur le cœur. Qu'il soit mort dans ces conditions, il a donné sa vie pour en sauver d'autres quand même. Il ne faut pas oublier ça.
Ne pas oublier, et c'est vrai, quotidiennement, des personnes vont se rendre sur sa sépulture pour lui rendre hommage. C'est bien dans cette commune que vivait le colonel Beltrame, hein, Martin.
Oui, il avait emménagé ici quelques mois avant l'attentat. D'ailleurs, sa femme habite toujours le village et le maire Gérard Barthez reçoit régulièrement des messages qui lui sont adressés, des anonymes qui lui expriment leur soutien en envoyant ses lettres ou en se recueillant sur la tombe.
Deux, trois fois dans le mois, on reçoit un courrier qui est destiné à Madame Beltrame. Depuis les événements, c'est régulier. Là, vous voyez, vous avez un bouquet de fleurs qui a été déposé, donc ça veut dire que quelqu'un est passé il n'y a pas longtemps.
Et vous-même, vous allez vous recueillir parfois ?
De temps en temps, quand il y a une sépulture, je viens. J'aurais aimé le connaître, parce que je pense que nous avions quelques valeurs identiques. On est là pour défendre la République.
Martin Fenot, des cérémonies vont-elles être organisées par la mairie ce week-end ?
Il y en aura plusieurs hommages ici demain en présence de sa famille notamment. Et dans une semaine, l'école communale portera son nom. Comme plus de 200 rues et établissements en France qui ont été baptisés Arnaud Beltrame ces derniers mois. Ce qui vous donne la mesure de l'attachement très fort des Français à ce héros.
Et vous n'êtes pas sans savoir que lundi nous recevions la mère d'Arnaud Beltrame dans la matinale. Elle nous disait « Mon fils ne s'est pas sacrifié ». Il a juste fait son devoir. Et on suivra évidemment sur Europe 1 les cérémonies en hommage au colonel Beltrame. Merci Martin Fenot, merci pour la semaine.
Nico Saliagas sur Europe 1.
L'édito éco à suivre avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nikos.
Pour le climat, la fin du diesel et le passage aux voitures électriques, c'est bien. Mais pour l'emploi, vous nous dites que c'est catastrophique ?
Ah oui, c'est un véritable tsunami. Ça fait vraiment peur, vous allez voir.
À 7h20, terrible hécatombe chez les dauphins. Plus de 1000 cadavres de ce cétacé qu'on aime tant découvert. Échoué depuis le début de l'année sur les plages de l'Atlantique. Pourquoi ? Qui est responsable ? Nous avons enquêté. Europe 1 va plus loin. Ce sera dans quelques minutes.
Restez avec nous sur Europe 1. Il est 7h13. Il est 7h13. principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nicolas Saliagas.
L'Union européenne propose deux scénarios pour le report du Brexit. 1. Si les députés ne votent pas l'accord, ce sera le 12 avril. 2. S'ils le votent, ce sera le 22 mai. La compagnie indonésienne Garuda annule une commande de 49 Boeing 737 MAX pour une valeur de près de 5 milliards de dollars. Décision après les deux crashs impliquant cet avion. Le nouveau préfet de Paris, Didier Lallement, présente ce matin à Christophe Castaner le dispositif de maintien de l'ordre prévu pour demain sur les Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, auquel une majorité de Français, 67%, ne fait pas confiance pour rétablir l'ordre. C'est un sondage Odoxa publié ce matin par le Figaro qui nous l'apprend. Moldavie-France est ce soir à 20h45. Les Bleus, champions du monde, affrontent une équipe classée 179e mondiale. Mais attention, aucun match n'est gagné d'avance. C'est un match de qualification pour l'Euro 2020.
Europe 1. Et c'est l'heure de l'édito Econicos avec la Banque Courtois. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Courtois, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Et Nicolas Barret avec nous comme tous les jours, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Les chiffres donnent le vertige, Nicolas. Des emplois sont supprimés par milliers dans l'industrie automobile. Et ce sont les voitures propres qui seraient responsables?
Bah écoutez, elles sont en quelque sorte devenues l'ennemi de l'emploi en quelques semaines depuis le début de l'année. Plus de 20 000 suppressions d'emplois ont été annoncées dans l'industrie automobile en Europe. C'est calamiteux. Vous vous souvenez d'ailleurs de la fermeture de l'usine d'Aulnay en 2012. On en avait énormément parlé. Ça avait été un choc. Eh bien, Aulnay, c'était 3 000 emplois. Donc là, vous voyez, ça fait l'équivalent de pratiquement 7 usines de cette taille dans toute l'Europe. Alors Volkswagen, Honda, BMW, Audi et bien sûr, les centaines de sous-traitants réduisent la voilure.
C'est la chute du diesel, l'explication, Nicolas?
Ben voilà, la chute du diesel et puis la décision du Parlement européen d'imposer aux constructeurs une réduction de 40% des émissions de CO2 sous peine d'amendes considérables. Ça fait des mois d'ailleurs que toute l'industrie européenne tirait la sonnette d'alarme en disant que cet objectif était irréaliste, qu'il allait obliger les entreprises du secteur automobile à engager des restructurations massives dans un laps de temps trop court. Ben on y est, tous les constructeurs ont prévenu qu'il y aurait des conséquences très lourdes pour l'emploi. Les syndicats de l'automobile ont également relayé le message, mais rien n'y a fait. Les députés européens, qui d'ailleurs sont en campagne en ce moment pour leur réélection, ont voté ces objectifs très contraignants et on en paye aujourd'hui les conséquences. Je rappelle que la filière automobile, c'est 13 millions d'emplois à travers toute l'Europe.
C'est beaucoup, mais on pensait que le virage vers l'électrique allait créer des emplois.
Alors c'est vrai, mais il en crée aujourd'hui, surtout en Chine et en Corée. Un tiers de la valeur ajoutée d'une voiture électrique se trouve dans la batterie. Or, les batteries viennent en quasi-totalité d'Asie. Autrement dit, l'accélération du virage vers l'électrique équivaut en fait à un transfert massif de l'industrie automobile d'Europe vers l'Asie. C'est tout le paradoxe. Ces décisions prises au niveau du Parlement européen pour certes de bonnes raisons de principe, la lutte contre le dérèglement climatique, ça revient en fait à délocaliser vers l'Asie le cœur de ce qui fait la valeur de la production automobile. Ça revient à imposer des choix de politique industrielle désastreux pour l'Europe et formidables pour la Chine. Le président chinois Xi Jinping, qui arrive en Europe pour une visite de quelques jours ces jours-ci, doit se dire tout bas, ces Européens sont bien naïfs.
Ça peut changer ?
Ça peut changer si on prend des mesures effectivement un peu plus fortes vis-à-vis de la Chine et si on arrive à construire une industrie de la batterie électrique, de la batterie en Europe.
Nicolas Barré, merci beaucoup. Et c'était l'édito Éco.
Europe 1. Nicolas Saliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Ce matin, nous partons dans le golfe de Gascogne pour vous parler d'une véritable hécatombe, celle des dauphins.
Nous venons de battre un bien triste record. Plus de 1100 carcasses de dauphins morts ont été retrouvées échouées depuis le début de l'année sur les plages de l'Atlantique. Bonjour Justin Morin.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous avez enquêté pour Europe 1, expliquez-nous, mais qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, pour le savoir, il faut autopsier l'un de ces dauphins et c'est ce que l'on va faire. Je vous emmène à l'observatoire Pélagis, c'est à La Rochelle. En ce moment, les scientifiques de ce laboratoire lié au CNRS consacrent la majeure partie de leur temps à ces animaux échoués. 450 rien que ces deux dernières semaines. Le dernier arrivé gît sur une grande table en métal au milieu de la salle d'autopsie. Olivier Fancanet dresse le diagnostic.
On est devant un dauphin commun qui a été retrouvé sur une plage la semaine dernière en Gironde et on voit quelques traces de capture accidentelle, dont une assez évidente qui est la section de la nageoire de la queue, coupée au moment de l'opération de démaillage. On sait que c'est quelque chose qui est pratiqué sur les bateaux, c'est pour éviter d'abîmer les filets. Voilà, donc là, sans examen très approfondi, on peut assez facilement orienter le diagnostic de la mort vers la capture accidentelle.
Et 90% des carcasses examinées présentent les mêmes preuves de pêche accidentelle.
Ah mais attendez, Justin, ces dauphins font partie d'une espèce protégée, non ?
Oui, effectivement, et normalement, il est interdit de les pêcher, sauf si c'est accidentel. Et c'est bien le problème ici. En fait, ce phénomène se produit chaque année entre janvier et mars parce que c'est la période de reproduction de petits poissons. Mmh. Or, ces petits poissons sont chassés par les dauphins, mais pas seulement. Ils sont aussi la proie des merlus et des bars, cible privilégiée des pêcheurs. Mmh. Dauphins et poissons se retrouvent sur les mêmes zones, connus des pêcheurs et donc prisonniers des mêmes filets.
Mais pourquoi le phénomène s'accentue aujourd'hui? 1100 carcasses, ça n'est pas rien.
Effectivement, malheureusement, on ne sait pas pourquoi ce phénomène s'accentue. Selon l'Observatoire Pélagis, il y a des hypothèses. Elles sont liées au mouvement des animaux, à des pratiques de pêche qui évoluent. Les observateurs scientifiques regrettent de ne pas pouvoir monter plus souvent sur les bateaux de pêche pour comprendre. Ça arrive, hein, mais pas assez. Et c'est au bon vouloir des capitaines et certains rechignent parce qu'ils craignent d'être stigmatisés.
D'autant plus que certaines ONG accusent ouvertement les pêcheurs de massacrer délibérément les dauphins.
Ouais, effectivement, l'ONG Sea Shepherd, qui défend les océans, mène des actions en mer, notamment au large des Sables d'Olonne, pour mettre la pression sur les chalutiers. Ça crée des grosses tensions. Alors régulièrement, des bénévoles comme Damien embarquent sur des bateaux à moteur, départ de nuit, même sous la pluie. Le but de ces sorties en mer, prendre les pêcheurs en flagrant délit et les filmer.
On s'approche d'eux, on attend qu'ils relèvent leur filet. Puis parfois, malheureusement, il y a des dauphins. Eux sont plutôt énervés qu'on vienne observer ce qu'ils font. Des gestes obscènes, des insultes, voire même des fois des tentatives de manœuvre d'intimidation. Mais voilà, ça dure depuis très longtemps. Et moi, je leur reproche le fait d'avoir une pêche industrielle et non sélective.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de confrontation avec les pêcheurs à chaque sortie. D'accord. Mais les vidéos qu'ils tournent, elles existent bien sur les réseaux sociaux. On voit des dauphins remonter dans les filets et l'ONG va même plus loin. Elle suspecte les pêcheurs de ne pas respecter la loi qui les oblige normalement à signaler toute capture accidentelle.
Mais en fait, les pêcheurs du littoral atlantique sont accusés de toutes parts. Qu'est-ce qu'ils répondent, Justin ?
Eh bien déjà, ils rejettent le terme de pêche industrielle. D'après un de leurs représentants, 80% des bateaux font moins de 12 mètres avec à bord des petits équipages. Mais ils se sentent surtout profondément blessés et stigmatisés. José Jounot, président du comité régional des pêches et des élevages marins, est le porte-parole de près de 370 navires qui travaillent dans le golfe de Gascogne.
Il faut arrêter de croire que c'est la fête du scalp quand on chope un mammifère. Ça fait rire personne, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est tellement proche de l'humain. Si on pouvait trouver le moyen, justement, d'éviter tout ce qui capture, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça nous ferait, quoi. Maintenant, je pense que dans le golfe de Gascogne aussi, on a beaucoup de flottilles étrangères. L'idéal, ça serait d'avoir un état des lieux aussi, puis des observateurs sur ces navires.
On a entendu le pêcheur, mais il aimerait quoi ? Une solution miracle ? Il n'y a pas de solution miracle pour protéger cette espèce ?
Alors, il y a des solutions. Elles existent. Hein. Un groupe de travail composé de scientifiques, de pêcheurs et d'ONG planche sur ce sujet depuis 2 ans. Et une mesure a été mise en place cette année. Les plus gros navires sont équipés aujourd'hui d'un boîtier électronique. Ça s'appelle un pinger. Et ce boîtier, eh bien, il émet des ultrasons censés éloigner les dauphins des filets. Alors, d'après l'Observatoire Pélagis, ça marche plutôt bien. Il réduirait de 60% les prises accidentelles. Sauf que les batteries s'épuisent vite, qu'ils ne sont pas adaptés à tous les types de filets. Alors, si leur efficacité est bien prouvée, le ministère de la Transition écologique et solidaire souhaite les généraliser. Le ministre François de Rugy sera d'ailleurs aujourd'hui à La Rochelle auprès des scientifiques pour montrer que le problème est pris très au sérieux.
Voilà cette question importante ce matin qu'on a essayé de développer avec vous, avec ce reportage. Comment stopper l'hécatombe des dauphins morts sur le littoral atlantique ? Europe 1 va plus loin, c'était avec vous, Justin Morin. Merci.
Et vous pouvez réagir en nous envoyant vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Nikos.
On va parler de tremblement de terre et de béton.
Oui, oui, un nouvel enduit en béton justement qui va permettre à vos murs de supporter les tremblements de terre les plus violents.
A tout de suite.
Il est 7h24, bon réveil avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mbida, Nikos.
Alors, la terre a tremblé cette semaine en France, avec des secousses mineures mardi, près de Brest, un peu plus importante mercredi à Bordeaux. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, mais parfois ça peut être plus grave. Et c'est pour cela qu'il existe, selon vous, mon cher Anissé Mbida, un béton armé ou pas, qui rend les bâtiments plus résistants en fait.
Oui, oui, et ça peut tout changer parce que ce béton va servir avant tout à renforcer les bâtiments existants. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il existe des normes de construction antisismiques pour toutes les zones à risque. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose pour les bâtiments existants, à part évidemment le faire tomber et en reconstruire un autre. Eh bien, avec ce nouveau béton, on va pouvoir fortifier tous les vieux bâtiments qui ne sont pas aux normes en appliquant simplement ce béton comme un enduit sur les murs qui sont aujourd'hui en place.
Mais ça sera suffisant si c'est un enduit ?
Oui, ils ont fait des tests en laboratoire et avec une couche de seulement 1 cm, le mur est capable de résister à un tremblement de terre d'une magnitude 8, alors que sans l'enduit, il s'écroulerait avec une magnitude d'à peine 5. Donc c'est vraiment très précieux pour la rénovation antisismique. Ce sont des chercheurs canadiens de l'Université de Colombie-Britannique qui ont mis ce béton au point. Ils lui ont ajouté des fibres à l'intérieur, ce qui lui procure comme ça une certaine élasticité.
Bah,
du coup, quand il est soumis au stress, comme un tremblement de terre par exemple, eh bien, il va se déformer au lieu de se casser.
Et on évite les fissures aussi ?
Bah oui, ça c'est le deuxième effet bonus de la technologie. D'ailleurs, les chercheurs sont en train de travailler sur une formule un peu moins extrême, un peu moins béton, mais beaucoup plus proche de la peinture élastique cette fois, pour justement éviter de voir nos murs complètement lézardés après les avoir repeints. Mais ça, je vous en reparlerai.
Merci Anissa Mbida. Bon week-end, vous allez certainement refaire vos murs, c'est ça ?
Je vais faire la peinture.
Bon courage à la maison.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant sinon plus d'informations sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kellmann, mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Mon cher Laurent Cabrol, c'est le printemps, mais on m'a dit qu'il y avait dans le 78 autour de Paris beaucoup de brouillard.
Bah oui, du brouillard, les bétons, il y a du brouillard, il y en a à Paris, il y en a partout.
On dirait du Audiard, surtout.
Mais le brouillard autour de Paris, il est assez important, c'est pour ça qu'on va en parler avec sérieux, parce qu'il affecte les aéroports, bien sûr, avec des visibilités de 100 mètres parfois, et donc c'est pas facile. Alors, on appelle ça du brouillard en par tâche en aéronautique, c'est-à-dire que on voit de haut, on voit juste des taches de brouillard.
D'accord.
Qui sont ponctuelles, et vous êtes en voiture, il se passe rien, et puis d'un seul coup, prenez un virage, pouf, vous êtes dans une nappe de brouillard très intense. Alors il y en a sur Paris, à Rouen, Amiens, Lille, Rennes, Saint-Nazaire, Le Mans, Orléans, Dinard, bien sûr, c'est autour de ces villes. Ce sont des zones à brouillard qui vont se disperser quand même assez rapidement, parce que le soleil n'est pas très loin. Là où ils ne se disperseront pas ou très mal, c'est vraiment sur le rivage de la Manche et de la mer du Nord, où nous aurons encore pas mal d'humidité. Les températures ce matin sont froides, on l'a dit et redit, moins 4 en Sologne, moins 2 en Dordogne, moins 1 dans le Morvan, 1 à Lyon, 2 à Rennes en ce moment, 4 à Bordeaux, 7 à Brest, 8 à Paris-Ville. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que une petite inquiétude pour dimanche et lundi. En fait, c'est dommage parce que nous sommes là en pleine période vraiment idyllique. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de la semaine. Nous avons des coefficients de marée qui sont très élevés, 116. Donc, cela veut dire que la pêche à pied va battre son plein tout au long de la journée sur les côtes. Et puis, à partir de dimanche et lundi, nous allons voir arriver pas mal de nuages et de la fraîcheur sur une bonne moitié nord de la France. Bon, j'y reviens tout à l'heure. Et vous verrez que ce n'est que passager, mais c'est embêtant. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À l'heure. À 7h40, Jean-Michel Apathy, on va parler de la 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes. 7h43, Axel de Tarlé menace sur le français Essilor, le géant mondial de lunettes. Et 7h45, est-ce que vous prenez le temps de dire merci à vos proches ? Merci à ceux que vous aimez, à ceux qui comptent vraiment, avant qu'il ne soit trop tard. Gratitude. Partage, c'est le thème du nouveau roman de Delphine de Vigan, Les Gratitudes. Elle est mon invitée dans un quart d'heure. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
En ce vendredi 22 mars, et il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Je vous dis merci et bonjour Céline de Kalman.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un proche d'Édouard Philippe dans la tourmente, son successeur à la mairie du Havre, Luc Lemonnier, a démissionné hier soir après la diffusion de photos de lui, nu, c'est une femme, qui a dévoilé les clichés affirmant que le maire lui-même lui avait envoyé alors qu'elle n'avait rien demandé. Les précisions de Jean-Jacques Herry.
Ces derniers jours au Havre, on ne parlait plus que de ça, le maire et sa photo nue. Tout commence par un courrier adressé en mai dernier par une femme aux élus municipaux de la majorité. À l'intérieur, une photographie de Luc Lemonnier dans le plus simple appareil. Une copie est adressée à Édouard Philippe à l'hôtel Matignon à Paris. Elle y accuse l'édile de comportements inappropriés envers les femmes. Celui-ci porte plainte pour diffamation et diffusion de photos sans son accord. En octobre, l'accusatrice est placée en garde à vue. Elle écope d'un rappel à la loi. Selon elle, la procédure est classée. Fin de l'histoire ? Eh bien pas du tout. La semaine dernière, on apprend qu'une enquête judiciaire est en cours. Et il y a 3 jours, la quadragénaire témoigne sur France Bleu Normandie. « J'avais l'impression d'être seule. Pour moi, ça a été un viol. » En réponse, Luc Lemonnier, ouvertement libertin, parle lui de séduction. Tout s'est passé entre adultes consentants. Pourtant, la polémique enfle dans la ville portuaire et hier soir, Luc Lemonnier annonce sa démission en raison de la nécessité de protéger sa famille, affirme-t-il. Dans l'entourage du Premier ministre, la réaction est très sobre. C'est une décision responsable, nous dit-on simplement.
Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Quel report pour le Brexit à 8 jours de la date fatidique? Bruxelles a proposé deux dates sous condition, le 12 avril ou le 22 mai. Tout va dépendre du vote des parlementaires. Un nouveau texte va leur être soumis la semaine prochaine.
Impunité zéro. C'est ce qu'a demandé Christophe Castaner au nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement.
Oui, demain, une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes et il faudra à tout prix éviter les violences sans précédent du week-end dernier sur les Champs-Élysées. Le grand inconnu, c'est on ne sait pas si Paris sera une nouvelle fois visée ou si d'autres villes seront ciblées comme Metz, Nice, Montpellier ou encore Toulouse. Plusieurs communes ont d'ailleurs pris des arrêtés pour interdire les manifestations. En tout cas, dans la capitale, les militaires de l'opération antiterroriste Sentinelle vont venir renforcer les forces de sécurité des militaires aux procédures d'engagement très strict, Aude Leroy.
Il ne devrait pas y avoir de soldats de la force Sentinelle aux abords de l'Élysée, de Matignon ou de l'Assemblée nationale, trop proche des lieux de manifestation. L'idée, c'est que les militaires protègent, comme d'habitude, des lieux sensibles aux risques terroristes. Mais s'il y a une menace de contact avec des gilets jaunes, ils sont dans l'évitement immédiatement remplacés par des gendarmes mobiles, explique le porte-parole adjoint des armées, le colonel Thomas.
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce qu'il n'y a pas de raison de voir des soldats de l'opération Sentinelle au contact des émeutiers. Les soldats de l'opération Sentinelle n'ont pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas entraînés, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés à cet effet.
Et si par hasard une confrontation gilet jaune militaire a lieu, les règles d'engagement sont très strictes. Utiliser d'abord des techniques de combat, comme le corps à corps, et ne faire usage de son arme qu'en cas de légitime défense, après deux sommations à haute voix, comme les policiers et les gendarmes, pour arrêter un tueur en action ou une voiture folle.
Aude Leroy pour Europe 1. Un an après l'attentat du Super U à Trèbes, la ville va commémorer ce triste anniversaire demain. Il y avait eu 4 morts, dont le colonel Beltrame. Édouard Philippe assistera aux commémorations. Le jour de l'attaque dans le supermarché, Christian Guibert était présent. Cet ancien policier a vite compris ce qui se passait et a eu les bons réflexes pour cacher de nombreux clients.
J'ai vu une porte, donc j'ai ouvert cette porte, c'était une chambre froide, quoi, un frigo. Je les ai mis là, et puis j'ai dit, vous fermez, surtout vous ouvrez à personne. Moi, je suis retourné vers le gars. J'essaie de m'approcher le plus possible, pour essayer de glaner le plus de détails possible. Et à un moment donné, il m'a vu. Il est venu vers moi en courant, il me braquait avec son arme, et il me disait, viens ici, viens ici. Ce qui m'a marqué, c'est son regard. Très très froid, haineux, déterminé. Donc j'ai pris mes jambes à mon cou. Hein. Et par la suite, j'ai appris que son arme s'est enrayée. Sinon, je pense que oui, il l'aurait tiré, oui. Sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Le mot d'attentat vient pas. Après, oui. C'est pas facile tous les jours. Je suis toujours suivi. C'est bien ancré à moi, en plus, vous voyez. Je me suis fait inscrire sur le bras, sur mon bras. C'est la date de l'attentat avec ma bonne étoile. Parce que je pense que oui, j'ai eu une bonne étoile ce jour-là. C'est une thérapie. De toute façon, on ne peut pas l'oublier, c'est dans la mémoire. C'est dans la tête. Bon, voilà, maintenant, c'est là, je sais que c'est là, je ne peux pas l'oublier. Ça fait partie de moi.
Christian Guibert au micro européen de Benjamin Peter. Un deuil national de 3 jours décrété en Irak après un naufrage sur le Tigre à Mossoul. Près de 100 personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont décédées, noyées en pleine célébration du nouvel an kurde et de la fête des mères.
La mythique collection de romans noirs de Gallimard fait son retour.
Oui, la collection était en pause depuis 14 ans. La noire revient chez vos libraires. 3 titres disponibles, dont Un silence brutal de Ron Rash. La collection revient au moment où le polar est particulièrement apprécié des lecteurs. Un roman sur 5 qui est vendu est un polar. Nicolas Carreau.
Attention à ne pas confondre. Chez Gallimard, il existe plusieurs nuances de noir. Il y a la mythique série noire, au titre Éliseré jaune, du pur polar à l'ancienne, et puis la noire, à mi-chemin entre le polar et la littérature sociale et politique, comme l'explique Stéphanie Delestré, la directrice de collection, très attachée à la noire. C'est elle qui a tenu à la faire renaître de ses cendres.
C'est une littérature de l'excès. Les ancêtres du roman noir, c'est qu'on achève bien les chevaux, ou le facteur sonne toujours 2 fois. C'est des romans qui sont en prise sur l'actualité politique et sociale de l'époque. Ça partage évidemment avec le polar une ambiance et aussi un regard critique sur le sujet dont il s'empare. On est entre deux eaux.
Et puis ce n'est pas seulement pour le prestige ou la beauté du geste. Le noir est un secteur porteur. Aujourd'hui, la quasi-totalité des grands éditeurs ont maintenant leur section dédiée. 1 livre sur 5 vendu en France est un polar. Chez Gallimard, on prévoit de publier 6 romans par an dans cette nouvelle collection.
Nicolas Carreau.
Et Céline Kallmann pour le journal de
7h30, je vous ai appelé Céline de Calman
oui,
tout
écoutez,
à l'heure.
C'est
petite particule
grave.
Comme ça. Bonne journée.
C'était sympa.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dites-moi Jean-Michel de Apathy.
Oui,
vous parlez de quoi ce matin?
Eh bien, Nicolas Aliagas, on va parler des manifestations. C'est tous les samedis, on y a droit. L'enjeu, c'est est-ce qu'il y aura des violences comme on en a eu samedi dernier? Enjeu très important pour le gouvernement et pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Et Axel Tarlet, bonjour.
Ah ouais, moi,
je vous l'ai enlevé.
Moi, je vais vous parler d'un mariage franco-italien qui tourne au vinaigre. Et c'est grave parce qu'on parle d'Essilor, qui est le champion français des verres correcteurs.
Et comment s'appelle l'italien concurrent?
Luxottica, ce sont les lunettes à la mode là.
Apathy Tarlet dans un instant sur Europe 1.
Bon réveil à tous, il est 7h37. Il est 7h38, Nicolas Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Avec cette nouvelle journée de manifestation attendue demain pour les Gilets jaunes, ce sera le 19e samedi consécutif de défilé. Faut-il redouter des saccages identiques à ceux de la semaine dernière, Jean-Michel ?
Hélas, oui, il faut les redouter parce que les casseurs seront là. En tout cas, c'est l'hypothèse sur laquelle travaille le gouvernement. Comme les semaines précédentes, les Gilets jaunes qui se laissent infiltrer seront complaisants avec les casseurs, d'une certaine manière complices de la violence. Donc oui, bien sûr, il faut redouter. Par rapport à la semaine dernière, par exemple, il y aura deux changements significatifs. D'abord, dans beaucoup de villes françaises, des zones entières seront interdites de rassemblement. Trois personnes qui se rassemblent et hop, les policiers viennent voir. Et puis, si les gens ne se dispersent pas, ils peuvent être amenés au commissariat. C'est le cas à Nice. Le préfet a pris un arrêté pour toute une partie du centre-ville interdite au rassemblement. Demain, ce sera le cas sans doute aujourd'hui à Paris. Ça n'est pas encore officiel, mais les Champs-Élysées, peut-être des rues adjacentes, interdites de tout rassemblement. Et puis, dans d'autres villes en France, personne ne sait si ce sera efficace parce que si on interdit aux manifestants d'aller là, ils vont ailleurs. Ouais. Et ils déplacent la violence. Enfin d'accord. Bon, le pouvoir fait avec les armes qu'il a et il n'y a pas d'arme absolue contre la violence évidemment. Ce qui devrait aussi changer de manière significative, c'est le comportement des forces de l'ordre. On a vu samedi dernier des policiers extraordinairement passifs et le préfet de police de Paris l'a payé de son poste. Les casseurs étaient libres de casser. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, donne un mot d'ordre, il l'a dit hier, zéro impunité. Alors, au-delà du mot d'ordre, ça veut dire que les CRS chargeront davantage les manifestants, ça veut dire que les policiers qui sont munis de LBD, lanceurs de balles de défense, utiliseront ces armes sans restriction, puisqu'ils avaient été contraints à des restrictions samedi dernier. Le risque, c'est que le bilan humain soit lourd, à la fois du côté policier et du côté manifestant d'ailleurs, et ceci peut être difficile à gérer pour le gouvernement. Donc, journée à très haut risque, dans un contexte qui est problématique pour le gouvernement parce qu'on se rend compte que, contrairement à ce que nous avions pu imaginer, le grand débat n'a pas dissipé la colère. Quand on regarde les sondages de cette fin de semaine, on se rend compte que l'opinion publique demeure en sympathie avec les Gilets jaunes. La violence, à peu près un Français sur deux dit « Ah oui, le Gilet jaune, je soutiens ».
Mais pas avec les casseurs nécessairement.
Voilà, la violence est condamnée, mais la violence ne détourne pas une partie importante de la population des Gilets jaunes. Donc travailler dans ce contexte, c'est très difficile. Évidemment, du point de vue du gouvernement, demain, l'ordre doit triompher de la casse, parce que si le désordre triomphait, alors Édouard Philippe et Emmanuel Macron pourraient chercher un nouveau ministre de l'Intérieur.
Jean-Michel Apathy, quotidiennement sur Europe 1 pour son point de vue et son analyse politique. Axel de Tarlet. Bataille autour d'Essilor Luxottica. Hein. C'est une bataille franco-italienne autour du fabricant des verres correcteurs. C'est la guerre des tranchées. Qui va prendre le pouvoir, les Français ou les Italiens?
Voilà, c'est la question. Et donc, on parle là d'Essilor. Essilor, c'est un géant français du CAC 40. C'est le numéro 1 mondial des verres correcteurs. 1 milliard d'êtres humains sur Terre, chaque jour, utilisent des verres ou des lentilles Essilor. Et donc, ce champion français s'est marié avec le numéro 1 mondial, cette fois des montures. C'est un Italien, Luxottica, sont des montures très design. Il a toutes les grandes griffes italiennes en licence, donc Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, mais aussi Ray-Ban, Chanel. Du coup, la lunette, vous voyez, devient un objet de mode. Et donc, on a marié l'excellence technologique française des verres correcteurs avec l'excellence italienne du design. Et on a franchement un leader mondial de la lunette indéboulonnable.
Elle consiste en quoi la bataille? Savoir qui va diriger, c'est ça, les Italiens ou les Français?
Exactement, parce que quand on a fait cette fusion, on a fait une fusion entre égaux, à 50-50. Donc c'est pas clair, et donc quand c'est pas clair, forcément, à un moment, ça cogne. Ben, ça y est, ça commence. Donc c'est les Italiens qui ont tiré les premiers hier dans le Figaro. Ils accusent les Français de se comporter en terrain conquis, je cite, « comme s'ils avaient racheté Luxottica ». Réponse ce matin du Conf français, toujours dans la presse, qui dénonce des accusations graves et mensongères qui nuisent nuisent au groupe. De fait, l'action hier a chuté de plus de 6%. Et les Français, eux aussi, accusent les Italiens de vouloir prendre le contrôle de cet ensemble.
Il y a encore quelques semaines, on parlait des tensions politiques entre l'Italie et la France. Là, on est vraiment au cœur d'un différend commercial. Comment ça peut se terminer? Est-ce que le mariage peut être annulé, Axel?
Non, ce mariage, il est consommé. La fusion a été faite en novembre dernier. Et d'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que les Français, juste avant le mariage, ont obtenu pas mal de choses dans la corbeille. Donc, ils ont obtenu notamment que le siège de ce nouveau géant, qui s'appelle Essilor Luxottica, soit à Paris. Donc vous voyez, il n'y a pas de risque de voir le groupe italien, ce groupe franco-italien, filé à Milan. L'ancrage avec toute la technologie Essilor restera en France. Non, c'est vraiment une question de personnes au sommet. Qui pour diriger ce géant? On a une vraie scène de ménage franco-italienne, donc des latins au sang chaud qui, gageons-le quand même, finiront par s'entendre. Parce qu'à la clé, on l'a dit, voilà, on a un champion mondial indéboulonnable de la lunette, hein, Essilor Luxottica, 160 000 salariés et avec un marché considérable parce que sur Terre, il y a encore plus de 2 milliards de gens qui ont des problèmes de vue non corrigés.
Axel de Tarlé, quotidiennement sur Europe 1, pour y voir plus clair.
Voilà.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Est-ce que vous dites merci à ceux que vous aimez? Je le dis d'abord autour de cette table.
On essaye. On ne le dit peut-être jamais assez, mais on essaye.
Vous acceptez les remerciements des uns et des autres? Vous savez, c'est de la gratitude, mais pas seulement.
C'est plus difficile d'accepter, de recevoir des compliments ou un merci que de le donner, je trouve.
J'aime bien recevoir des compliments.
C'est le thème. Elle était très bien.
Merci, Axel.
Du nouveau. C'est pas des compliments, c'est de la gratitude, c'est du merci. Delphine de Vigan a écrit un ouvrage passionnant et bouleversant, les gratitudes. Elle parle notamment de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on devient quand les mots partent et qu'on perd aussi la mémoire? Elle est mon invitée dans un instant sur Europe 1.
Restez avec nous, il est 7h44. Et les 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Vegas.
L'Union européenne propose deux scénarios pour le report du Brexit. Si les députés ne votent pas l'accord, ce sera le 12 avril. S'ils le votent, ce sera le 22 mai. Les lycées appelés à une nouvelle journée de mobilisation pour protester contre le réchauffement climatique. À Paris, un rassemblement est prévu devant le Panthéon à partir de 13h. Premier match des Bleus de la campagne de qualification à l'Euro 2020 de football. L'équipe de France affronte la Moldavie ce soir à 20h45.
Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin Delphine de Vigan pour son dernier livre, Les Gratitudes, paru chez Jean-Claude Lattès. C'est un roman à trois voix, sensible et poignant sur la difficulté parfois de dire merci aux gens qu'on a aimés.
Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour Nikos.
Votre roman s'appuie sur trois personnages. Mishka, une vieille dame de 80 ans, Marie qui l'accompagne dans ses derniers jours, Jérôme, un orthophoniste qui prend soin d'elle jusqu'au bout pour qu'elle n'oublie pas les mots. Mishka, Marie, Jérôme, tous les trois sont tétanisés par une chose. La peur de passer à côté de la gratitude, des merci qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient dû formuler. D'où vient l'idée d'explorer ce thème de la gratitude?
En effet, c'est le thème principal du roman, bah parce que je me disais, mais au fond, est-ce qu'on passe notre journée à dire merci? Merci pour le sel, merci pour le renseignement, etc. Et est-ce qu'on remercie vraiment les gens qui ont compté pour nous, qui ont joué un rôle déterminant dans notre vie? On en a tous, on a tous dans nos souvenirs ou autour de nous, des gens qui ont été très très importants. Est-ce qu'on sait leur dire merci? Est-ce que c'est facile de leur dire merci? Voilà, donc le livre est parti de cette interrogation avec l'envie de mettre en scène des personnages qui sont reliés, comme vous le disiez, par des faisceaux de gratitude, dites ou non dites.
Et c'est une situation qui touche tout le monde, d'une façon ou d'une autre, quand on perd un proche, quand on réalise qu'on n'a pas pris le temps de lui dire les choses, celles qui sont essentielles. Aller à l'essentiel, ne garder que la substance des choses et mettre de côté tout le reste. Il y a des merci qui sont difficiles à exprimer, mais certains qui sont aussi difficiles à recevoir. Delphine de Vigan.
Oui, tout à fait. Bah, déjà, c'est vrai que ce n'est pas facile de dire merci. Parfois, on n'a pas le temps, c'est trop tard, vous l'avez dit. Parfois, on ne sait pas exactement comment le dire. Et ça n'est pas forcément simple non plus de recevoir des merci quand ils sont un peu, justement, un peu chargés d'émotions. D'ailleurs, on voit bien, même dans la vie de tous les jours, quand les gens vous disent merci, on dit il n'y a pas de quoi, de rien, etc. On n'est pas toujours très à l'aise avec la gratitude quand elle est exprimée.
Il y a aussi la problématique du temps qui passe dans votre ouvrage, Delphine de Vigan, qui file trop vite. Hein, Mishka a 80 ans, elle a peu de temps devant elle. Il y a une urgence aussi supplémentaire. Elle perd ses mots, elle les déforme parce qu'elle souffre d'aphasie. Ça vous a amusé aussi, ces lapsus? Par exemple, quand on parle des résidents de l'EHPAD dans lequel elle va se retrouver, elle dit les résistants
ou les résignants. Ne pas utiliser les armes que sont les mots hein, dans une approche sémantique, c'est déjà ne plus être utile, ne plus être là.
C'est un sentiment de perte très important pour cette femme qui a été correctrice, on comprend qu'elle a vraiment été maître de son langage. Et là, le fait qu'elle perde peu à peu les mots, comme vous le disiez, elle commence par les remplacer par d'autres. C'est ce qu'on appelle la paraphasie. Elle réinvente des nouveaux mots, des mots valises qui sont fabriqués à partir de d'autres mots qui sont souvent assez poétiques, parfois j'espère en tout cas très drôles, mais qui signifient quelque chose de ce qu'elle ressent ou de ses souvenirs d'ailleurs, parce que tous ces lapsus que j'ai eu grand plaisir à inventer, c'était pour moi un travail important sur le texte, signifient, racontent quelque chose de l'état d'esprit dans lequel elle est, de son moral, de ses doutes, de ses inquiétudes.
Ou une autre lecture en fait, il y a deux lectures dans cette approche sémantique. Pour les gens qui nous écoutent, vous parlez aussi de la vieillesse dans les gratitudes. Et qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées, de nos vieux ? Elle dit, il faut dire les choses. Hein.
Je suis une vieille. Pourquoi on dit les personnes âgées ? On ne dit pas les personnes jeunes. Oui. Donc, disons les vieux. Au moins, elle dit ça a le mérite d'être fière.
Elle est dans un EHPAD et dans ses cauchemars, elle est maltraitée. Et on lui rappelle qu'elle ne sert à rien, qu'elle coûte de l'argent. Vous avez vu, aujourd'hui, votre roman fait une résonance à l'actualité, puisque aujourd'hui, comparé devant la justice, un aide-soignant qui maltraitait une dame de 98 ans. Vous êtes allé voir ce qui se passait dans les EHPAD pour écrire ?
Non, à vrai dire, pas vraiment. Le livre, le personnel de Mishka est inspiré d'une vieille dame qui a été très importante pour moi et qui a terminé sa vie dans un EHPAD, mais où elle était très bien traitée, parce qu'il y a aussi, heureusement, des endroits où les gens sont bien traités. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler par les médias, que c'est une question très importante à notre époque. Je pense qu'on le redoute tous pour nos proches. La maltraitance, on la redoute pour nos proches, éventuellement pour nous-mêmes. Je voulais pas non plus en faire l'économie dans le roman. C'est la raison pour laquelle ça apparaît à travers ses cauchemars. Elle sait que ça existe. Elle se sent en effet un poids pour la société, ce qui doit être assez compliqué quand on est très vieux dans un monde qui prône la performance, la rentabilité. Elle ne rapporte plus d'argent. Elle est un poids. Elle coûte de l'argent.
Elle ne sert à rien.
Voilà, elle ne sert à rien. Et donc ça apparaît à travers ses cauchemars, à travers ce personnage de la méchante directrice qui est vraiment très méchante et qui heureusement n'existe pas, en tout cas pour...
C'est une projection, c'est un fantasme. Vous, de toute manière, en tant que romancière, vous explorez des sujets parfois tabous, vous aimez aborder des sujets de société difficiles comme le harcèlement au travail, c'était les heures souterraines, l'anorexie, jour sans fin, le suicide, rien ne s'oppose à la nuit, un thème plus personnel, ou encore l'enfance et l'adolescence avec les loyautés. Vous pourriez être inspiré aussi par l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui en France, tous les samedis, les gilets jaunes ?
Peut-être, oui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important d'être un auteur ancré dans la société d'aujourd'hui. C'est une des raisons qui me pousse à écrire. Au fond, parce que souvent, je suis heurtée par ce qui se passe autour de moi. Donc, toutes les questions qui sont soulevées par les gilets jaunes, cette fracture en fait au sein de notre société, bien sûr qu'elle m'interroge. Mais l'écrivain, il est dans un temps qui n'est pas celui de l'actualité. Souvent, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin de temps pour comprendre les choses, pour les analyser. Je serais incapable d'écrire aujourd'hui là-dessus. Mais peut-être que dans quelques années, j'essaierai de raconter ce qui s'est passé aujourd'hui.
Avec votre démarche plus personnelle et plus introspective. Pour terminer cet entretien, ça passe très vite, je voudrais juste vous lire. Votre personnage, l'orthophoniste qui s'occupe de Mishka dans cet EHPAD, dit « Je travaille avec l'absence, les souvenirs disparus et ceux qui ressurgissent au détour d'un prénom, d'une image, d'un mot. Je travaille avec les douleurs d'hier et celles d'aujourd'hui. » Les confidences et la peur de mourir, ça fait partie de notre métier. Alors, je veux vous le dire, merci d'avoir été avec nous,
merci
Delphine de Vigan, parce que vous nous rappelez que la gratitude est la plus belle des façons d'honorer chaque minute de notre existence.
Merci beaucoup.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre dès le début du journal de 8h, Nikos.
Tension maximale sur Christophe Castaner à la veille d'un nouveau samedi des Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur n'a plus droit à l'erreur. Et puis dans une minute, la petite histoire qui fait du bien de Jean-Philippe Ballas. À votre avis, il y a quoi dans votre téléphone ? Restez avec nous, vous serez surpris vous-même.
Et vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 7h53. À tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h55, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Avec Jean-Philippe Ballas, tous les jours avant 8h, vous êtes entré dans ce studio et vous regardiez mon téléphone d'une façon très étrange. Qu'est-ce qu'il vous prend ce matin ?
Vous allez comprendre. Imaginez les amis, dans une main, je tiens le téléphone mobile de Nikos et avec l'autre, j'allume un robot mixeur. Ça fout la trouille un peu, hein. Attention, c'est pas un plaisir sadique, du moins pas que, non, c'est pour la science. Je vous emmène dans un laboratoire de l'université de Plymouth au Royaume-Uni, là où des chercheurs ont donc broyé, ventilé, éparpillé façon puce, un téléphone avec une petite pomme dessus. Ils l'ont littéralement réduit en poudre. Pourquoi faire ? Eh bien, pour en isoler toutes les matières premières, dresser la liste, le pourcentage de tous les minerais qui servent à la fabrication d'un mobile. Alors, on a tout. On a du fer, de l'or, de l'argent, du silicium. On a aussi du tungstène, du cobalt, souvent venu d'Afrique, souvent de zones de conflit, extrait dans des conditions terribles. Et là, soudain, il y a le robot mixeur qui nous fait rire au début. Il nous fait réfléchir aussi, plutôt futer les scientifiques dans leur approche plutôt grand public. Ils affirment que pour un seul téléphone, un seul, il faut sortir jusqu'à 15 kilos de minerais. D'où l'importance du recyclage, et oui, c'est le message. Et puis surtout, ne pas se jeter toujours sur le dernier modèle à la mode. Bref, c'est pour toutes ces raisons, Nikos, que j'ai décidé d'épargner votre téléphone, finalement. Merci. Et vous qui nous écoutez, bah, vous savez quoi ? Vous pouvez laisser un message à Nikos en français, en grec, en anglais. Il vous rappellera dès que possible.
Soleil, musique et la petite histoire qui fait du bien tous les jours sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Yo.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Merci Laurent Cabrol, restons dans la gratitude pour tout ce que vous nous donnez quotidiennement et vous ensoleillez notre vie, d'autant plus que ce matin il fait beau.
Avec plaisir, c'est une réponse que l'on donne dans ma région que je trouve très belle. Quand vous allez chez un commerçant et que vous donnez la monnaie, et vous rend la monnaie, vous dites merci madame, elle vous répond avec plaisir.
Avec plaisir.
Et voilà. Ça c'est une très belle réponse au merci. Voilà, je ferme la parenthèse, donc c'est avec plaisir que je vais vous dire que nous allons vivre certainement la journée la plus belle de la semaine. Il faut en profiter, nous allons vivre avec des températures de 16 à Lorient cet après-midi car il fait très froid ce matin, mais on ne s'en apercevra plus très vite. 17 à Nantes et Lille, 18 à Paris, Cambrai et Belfort, 19 à Nice, 20 à Limoges, 21 à Toulouse, 22 à Marseille, il fait 21 aussi, fera aussi 21 à Lyon et 24 degrés à Nîmes. Vous voyez que ce sont vraiment des températures très agréables, il faut en profiter parce que la fraîcheur va revenir dans les jours qui viennent, j'aurai l'occasion d'y revenir, d'en reparler. En ce qui concerne la bande de brouillard qui sévit encore sur la moitié nord, sur une petite moitié nord, ne soyez pas inquiets, elle va se dissiper très vite, notamment sur la région parisienne où il y avait pas mal de brouillard ce matin, non pas à Paris intramuros, mais dans les départements alentours. Je voudrais vous dire simplement, rappeler que le coefficient de marée est très important, qu'on va pouvoir se promener, que les nappes phréatiques, on a les résultats pour l'instant des nappes phréatiques. Eh bien, c'est pas si catastrophique que cela. La plaine d'Alsace, oui, c'est catastrophique. La haute vallée du Rhône et la haute vallée de la Saône, oui, c'est catastrophique. Mais les mieux lotis, curieusement, les régions les plus sèches, la Corse, la Garonne, la Dour et le bassin méditerranéen. Alors, il y a encore à faire pour remplir nos nappes phréatiques, mais on n'est pas dans le drame le plus total. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce sont les meilleures nouvelles que je puis vous donner.
Elles sont déjà pas mal.
Oui, c'est
merci.
Pas mal,
merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce vendredi 22 mars. Belle matinée à tous. Il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal de 8h présenté par David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Pression maximale sur Christophe Castaner à la veille d'un nouveau samedi de mobilisation. Le ministre de l'Intérieur a promis l'impunité zéro. Nous entendrons les représentants des syndicats de police dans ce journal. Les Européens ont finalement décidé d'un nouveau calendrier pour le Brexit. Ce sera soit le 12 avril, soit le 22 mai, soit beaucoup plus tard. On vous explique tout cela dans un instant. Et puis nous serons à Alger. De nouvelles manifestations aujourd'hui pour demander le départ d'Abdelaziz Bouteflika.
À 8h12, Vincent Herouet, le président Xi Jinping en visite en France à partir de dimanche. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Jordan Bardella, le tête de liste du Rassemblement National aux Européennes.
Europe 1.
Assistera-t-on demain aux mêmes scènes que celles de samedi dernier ? Le ministre de l'Intérieur n'a plus le droit à l'erreur. Christophe Castaner présentait hier le dispositif de sécurité au syndicat de policiers. À la sortie, le discours est apprécié, mais les représentants restent sur leur garde. Écoutez Fabien Von Emmelrich, secrétaire général du syndicat Alliance.
Il y a eu un discours d'extrême fermeté. Maintenant, nous, on attend les actes. Il y a des directives de prise. Il y a beaucoup plus de mobilité, par exemple, pour nos collègues qui vont faire du maintien de l'ordre. Heureusement, on va remplacer les collègues qui font les plantes vertes aujourd'hui par des sentinelles, ce qui permettra de recentrer le policier sur son cœur de métier et enfin faire du vrai boulot de flic. On demande à voir et dès samedi, on appréciera.
Fabien Von Emmelrich, secrétaire général du syndicat Alliance, au micro Europe 1 d'Alain Accot.
Et en première ligne, depuis 4 mois,
les commerçants, David.
Oui, ils ont perdu et continuent de perdre beaucoup d'argent. Le gouvernement a créé des brigades spéciales qui vont à leur rencontre pour leur proposer un accompagnement ou des facilités de paiement. Reportage à Toulouse de Benjamin Péter.
Contribution foncière, TVA, les factures s'accumulent pour Valérie. Elle, qui tient un café familial dans le centre-ville, a perdu plus de 30% depuis le début du mouvement.
Le jour qu'on préfère, parce que c'est là où les familles sont ensemble et ont envie de partager un moment, c'était le samedi. Et ben là, ils viennent plus, quoi. C'est pas facile. Ces larmes, c'est un peu de colère.
C'est pour ces commerçants en difficulté que le gouvernement a mis en place ces brigades, composées d'agents de l'URSSAF ou des finances publiques. Ils viennent proposer des étalements, voire l'annulation de certaines dettes.
Vous aurez sûrement, vu le montant, votre CFE, une remise partielle. D'accord. On va vous faire un plan global.
Moi, ça me va, hein, l'étalement, oui, mais si j'arrive pas à travailler comme je le faisais précédemment, c'est pas que je veux pas le donner, cet argent, c'est que je le gagne pas, quoi.
Plus de 8 commerçants sur 10 ont subi une chute de chiffre d'affaires, alors Pierre Falcou de la CCI est très inquiet pour les prochaines semaines.
De jour en jour, nous aidons de plus en plus d'entreprises, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont en manque de trésorerie. Ils ont loupé leur fête de Noël, imaginez. Ils ont loupé les soldes, moins 22% en moyenne. On a peur que dans les mois qui arrivent, ça soit le pire.
Et pour faire face le plus rapidement possible à ces problèmes de trésorerie, la CCI a mis en place un fonds de solidarité de près de 600 000 euros. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Toulouse qui, comme Montpellier ou Nice, sont ciblés pour demain par des appels à manifester. À Nice, le gouvernement a annoncé que les rassemblements seraient interdits.
Le Royaume-Uni a désormais deux options pour obtenir un report du Brexit.
Oui, si les députés de la Chambre des communes approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce, la date de sortie sera le 22 mai. Si au contraire, ils rejettent ce texte pour la troisième fois, Theresa May n'aura que jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes en Grande-Bretagne. Elle pourrait alors demander un nouveau report dont la durée n'a pas été fixée. En fait, c'est aux Britanniques de régler leurs problèmes. Écoutez le président de la République française, Emmanuel Macron.
L'Union européenne, de manière très claire, a à faire face à une crise politique britannique. Les politiques britanniques sont dans l'incapacité de mettre en œuvre ce que le peuple leur a demandé. Mais cette crise, elle est britannique. En aucun cas, nous ne devons rester bloqués dans cette situation. C'est pourquoi nous avons donné deux échéances. Nous sommes organisés et donc nous ne subirons pas. Mais maintenant, il appartient aux Britanniques de lever les ambiguïtés qui sont les leurs.
Emmanuel Macron à Bruxelles avec Isabelle Horry pour Europe 1.
Et la guerre ouverte entre l'exécutif et le Sénat.
Oui, la Macronie n'a pas apprécié que les sénateurs saisissent la justice du cas de trois hauts responsables de l'Élysée soupçonnés de parjure. La réaction a été brutale avec notamment le boycott des questions au gouvernement par le Premier ministre. Mais les sénateurs n'entendent pas se laisser impressionner. Adrien Beck.
Ils veulent nous cogner, mais on va tenir le coup. Ce poids lourd du Sénat ne décolère pas. Entre l'absence assumée d'Édouard Philippe devant les sénateurs hier après-midi, les accusations de procès, de tribunal politique, le gouvernement piétine la séparation des pouvoirs, s'emporte un sénateur. L'occasion d'un coup de pression sur l'exécutif alors que s'annonce une réforme institutionnelle, l'élu socialiste Patrick Kanner.
Si la réforme souhaitée par le président, c'est l'affaiblissement du Sénat, voire même son effacement, et la rupture de l'équilibre des pouvoirs entre les deux chambres, eh bien là, nous changeons de régime et le Sénat prendra ses responsabilités.
Alors avec cet épisode, Emmanuel Macron aura du mal à s'attaquer au Sénat, veulent croire plusieurs élus. Qu'il n'essaie pas de se venger, ce serait mettre une allumette dans de la nitroglycérine, avertit un président de groupe. Sauf si le chef de l'État choisit finalement de faire passer sa réforme par référendum en contournant les assemblées. On a vu que le Sénat n'était pas tenu, persifle un élu En Marche. Ça pourrait être une bonne idée.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Le maire du Havre démissionne après la diffusion de photos de lui entièrement nu. Il avait lui-même envoyé ses clichés à une femme qui les a diffusés, notamment auprès de plusieurs conseillers municipaux. Luc Lemonnier, qui dit vouloir protéger sa famille, est un proche d'Édouard Philippe. Il lui avait succédé à la mairie du Havre en mai 2017.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h présenté par David Doucan. La mobilisation anti-Bouteflika qui continue et nous serons à Alger dans un instant. A tout de suite.
Il est 8h06, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La matinale, évidemment, avec David Doucan. La suite du journal, des manifestations sont prévues aujourd'hui en Algérie.
Oui, après un mois de mobilisation, les protestataires n'entendent pas quitter le terrain. Ils demandent le départ pur et simple d'Abdelaziz Bouteflika. Reportage à Alger de notre envoyé spécial Mathieu Bock.
Lorsqu'ils passent autour de la place Maurice-Audin, les conducteurs les plus jeunes klaxonnent et poussent la radio à fond. Cette place est devenue l'un des lieux de rendez-vous emblématiques depuis un mois. Alors on entretient la ferveur car cette mobilisation paye, explique Mohamed.
La mobilisation a poussé le pouvoir actuellement à changer son discours. Un mois avant, le premier secrétaire du FLN a déclaré « S'ils veulent prendre le pouvoir, il faut attendre au moins une trentaine d'années. » Hier, il a déclaré « Moi aussi, je suis avec le peuple, avec le mouvement, ça veut dire ça commence. »
À côté de lui, Younes vient d'acheter un drapeau pour la manifestation. Pour ce jeune étudiant, même si le pouvoir semble fléchir, il faut descendre dans la rue encore et encore.
Bien sûr que c'est encourageant, mais en même temps, il ne faut pas lâcher. C'est le moment ou jamais. On était vraiment dans l'ombre. Maintenant, on est sorti et on ne va pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que ça va donner un truc positif, disons ça comme ça.
Certains militants prédisent une mobilisation encore plus forte que la semaine dernière, malgré des températures particulièrement fraîches et la pluie qui devrait tomber toute la journée. Alger, Mathieu Bock, Europe 1.
Voici maintenant une innovation qui fera plaisir aux gros rouleurs.
Oui, c'est une première au péage de Boulay sur l'A4. Il n'y a plus de barrière, même plus besoin de s'arrêter pour payer. Jeanne Bergaoui est allée tester le dispositif et nous explique tout cela.
Pas de barrière de péage et donc pas de file d'attente en pleine heure de pointe. Je roule à environ 50 km/h pour passer sous le portique tout neuf, équipé de caméras et de lasers qui détectent mon véhicule.
Vous êtes devant la borne de paiement qui est située sur le parking de Boulay. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation et là voilà, vous avez été donc filmé, repéré par le portique, vous venez juste de passer et vous êtes déjà reconnu.
Pour s'acquitter du péage, vous avez le choix entre un paiement sur cette borne automatique installée sur le parking quelques mètres après le portique. Vous pouvez aussi régler sur internet sous 10 jours ou grâce à un abonnement classique de télépéage, un badge à poser sur le pare-brise. Mathieu est commercial en Moselle, il emprunte fréquemment cette autoroute.
Ça peut être très pratique, c'est plus fluide, il y a moins de difficultés à s'engager le matin où il y a beaucoup de poids lourds. Je pense que c'est non seulement un gain de temps, mais un gain de la zénitude.
Un péage difficile à frauder pour ceux qui oublieraient de payer, une lettre de relance sera envoyée avant un nouveau rappel avec une majoration de 20 euros. Boulay, Jeanne Bergaoui, Europe 1.
C'est ce soir que commence l'aventure Euro 2020 pour l'équipe de France.
Oui, les Bleus affrontent à partir de 20h45 la Moldavie, une petite nation de football, mais dont il faudra se méfier. L'envoyé spécial d'Europe 1 sur place s'appelle Cyril de la Morinerie. Écoutez son reportage.
Le petit stade Zimbrou entouré de barres d'immeubles, vestige de l'époque soviétique, on est bien loin du faste d'une Coupe du Monde. Chișinău est la capitale de la jeune République Moldave, pays de 3,5 millions d'habitants, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie. Un voyage pour le moins pittoresque dans cette ville arborée, où le marché central, grouillant de monde, regorge de fruits et légumes. Ce pays agricole et viticole est en revanche beaucoup moins connu pour son football. 170e nation mondiale au classement FIFA, elle est moins bien classée par exemple que Tahiti ou le Népal. Raison de plus de se méfier, prévient le capitaine Hugo Lloris.
On sait qu'avec ce statut de champion du monde, on est attendu partout et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le match est de nature à être un match piège, à nous de nous faire violence mentalement et répondre aux exigences du haut niveau et de gagner ce match.
Les Bleus, et c'est toute la difficulté, doivent maintenant tourner la page glorieuse de la Coupe du Monde. La défaite en fin d'année contre les Pays-Bas ou le nul face à l'Islande ont été un bon avertissement. Il faut maintenant chercher une qualification pour l'Euro et personne ne fera de cadeau aux champions du monde. Chișinău, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Et pour conclure ce journal, Nikos, une petite information cinéma. Figurez-vous que James Bond devient écolo dans le prochain opus, 25e mission de James Bond. Le tournage vient de commencer. La marque Aston Martin, la fameuse marque Aston Martin, vient d'annoncer qu'elle mettait à disposition de 007 un véhicule électrique rechargeable. Voilà. James Bond, il évolue avec nos sociétés. Il avait arrêté de fumer à une époque.
C'est vrai. Moi, je suis resté à l'époque Sean Connery.
Moi aussi. Voilà. Indéniablement.
Moumoutland, le meilleur. Merci beaucoup. C'était le journal de David Doucan sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
Et les 8h11, coup d'œil à présent à l'actualité internationale. Nikos avec Vincent Hervouette.
Bonjour Vincent Hervouette.
Eh bien bonjour Nikos, bonjour
le
Céline, bonjour
président
à tous.
Chinois. Alors je vais essayer de ne pas écorcher son prénom et son nom, c'est Xi Jinping.
Bravo.
Il sera en France dimanche. Avant, il s'attarde en Italie. Pourquoi?
Rome n'est plus le centre du monde, c'est Pékin. Mais on peut encore dire que tous les chemins mènent à Rome, puisque la route de la soie va passer par là. L'Italie sera le hub chinois sur le vieux continent. Le président Xi a passé la nuit dans la ville éternelle, heureux comme un pape. Demain, il emmènera sa femme en Sicile. Elle veut visiter l'opéra de Palerme. Pas forcément l'acheter. Et puis... Il signera avec Giuseppe Conte un accord cadre qu'il négocie encore et dont on ignore tous, il y a des clauses secrètes ou les garanties qu'offre l'Italie. Les Chinois ont investi dans une centaine de pays, notamment en Grèce, au Portugal, en Hongrie, mais l'Italie est le premier pays du G7 à s'associer au projet pharaonique des routes de la soie. La gauche avait ouvert la voie, le centre a conclu la négociation et les souverainistes ont laissé faire. C'est un projet à 2000 milliards de dollars et à ce tarif, Giuseppe Conte est prêt à signer avec son sang et tant pis si ça ressemble à un pacte avec le diable. Ça fait 2000 ans que les Romains accueillent les barbares. Depuis la guerre, ils faisaient du zèle pour être les meilleurs amis des États-Unis en Europe. Les 7 bases militaires américaines ne sont pas remises en cause, mais Washington se sent trahi ce matin.
Oui, d'autant plus que les Américains menacent de ne plus livrer aucun secret aux Italiens s'ils achètent à Huawei son Internet 5G.
Alors on sent la paranoïa anti-chinoise qui monte. Il n'y a pour l'instant aucune preuve que le groupe chinois ait ménagé des portes secrètes dans les commutateurs téléphoniques qu'il vend dans le monde entier. Les Britanniques et les Russes ont désossé tout le matériel informatique en vain. On comprend qu'une nouvelle guerre froide est toute prête au frigo. La bataille commerciale engagée par Donald Trump n'est qu'un prélude à un affrontement stratégique et les Chinois s'y préparent. Les Européens en discutent. C'était le thème du dîner des 27 dirigeants hier soir à Bruxelles. Emmanuel Macron se félicite d'un réveil européen. Alors il faut dire que le sommeil était lourd. Ça fait quand même 40 ans que les Chinois ont quitté leur campagne pour gagner les villes, puis pour conquérir le monde. Pendant ce temps, l'Union européenne, obsédée d'elle-même, consacrait son énergie à débattre de ses institutions ou du nom de la Macédoine. Il n'est rien sorti de concret du dîner d'hier soir, mais il n'était pas inutile. Il peut arriver des accidents quand on est à l'arrêt sur l'autoroute de la soie.
Vincent Hervouet, ni hao pour l'édito international.
Bravo!
Nikos Aliagas sur Europe 1.
C'est tout ce que je sais dire. Restez avec nous. Dans 2 minutes, l'interview politique d'Europe 1 avec Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invité ce matin?
Eh bien écoutez, il a commencé à 16 ans en collant des affiches pour le parti de Marine Le Pen. À peine 7 ans plus tard, c'est son visage qui est collé sur les affiches du Rassemblement National. Lui qui conduit sa liste aux européennes. Alors que pense-t-il de la guerre déclarée entre le Sénat et l'Élysée, de la mobilisation des soldats de Sentinelle demain? Jordan Bardella sera mon invité.
À tout de suite.
On reste sur Europe 1 avec Nikos Aliagas. Il est 8h14. Il est 8h17, Nikos Aliagas.
La tête de liste du Rassemblement National aux Européennes, Jordan Bardella, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Avant de vous interroger sur la décision prise hier par le Sénat de saisir la justice pour qu'elle enquête sur l'entourage du président, je voudrais vous faire écouter ce que Marine Le Pen disait du Sénat il n'y a pas si longtemps.
Quant au Sénat, effectivement, je considère à titre personnel que cette institution est en même temps inefficace et coûteuse.
Voilà, Marine Le Pen réclamait la suppression du Sénat. Finalement, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que le Sénat est utile?
On s'est posé la question sur le Sénat, parce que c'est vrai que le rôle du Sénat dans le processus de la loi alors, ralentit souvent la construction d'une loi, et qu'en temps de crise, tout ce qui n'est pas utile est inutile. Coûte encore une fois énormément d'argent. Maintenant, il faut être très clair, le Sénat a parfaitement joué son rôle aujourd'hui.
Il est venu un allié dans votre combat contre Emmanuel Macron.
Non, c'est pas la question d'être un allié, c'est que l'Assemblée nationale est aujourd'hui absolument pas représentative du spectre politique français, que la commission qui est chargée de suivre le dossier Benalla a refusé un certain nombre d'enquêtes, un certain nombre d'auditions, et que le Sénat a parfaitement joué son rôle, qui est celui non pas seulement de voter la loi, d'accompagner la construction de la loi, mais de contrôler l'action de l'exécutif. Alors, donc je me félicite que les sénateurs aient fait leur job, et nous leur tirons notre chapeau.
C'est le bureau du Sénat qui a décidé de saisir la justice. Il est composé de 26 membres, dont 10 LR et 6 PS. S'agit-il d'une décision politique pour atteindre le président?
Non, c'est une décision qui... l'affaire Benalla est un scandale d'État, parce que c'est pas l'affaire Benalla, c'est l'affaire Macron. Bon, on s'aperçoit que Monsieur Benalla a menti, il a menti devant les sénateurs, semble-t-il, qu'il est mis en examen dans un certain nombre d'affaires. Alors c'est assez marrant d'entendre Emmanuel Macron nous parler d'influence étrangère derrière les Gilets jaunes, alors que semble-t-il l'influence étrangère était à côté de lui à l'Élysée, puisque Monsieur Benalla, semble-t-il, encore une fois, négociait des contrats avec des oligarques russes, a violé son contrôle judiciaire. affaire. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on aille au bout de cette affaire, que M. Benalla réponde de ses actes devant la justice. Et encore une fois, moi, j'ai entendu M. Castaner parler d'impunité totale désormais à l'égard des Gilets jaunes. Il serait bien qu'il en soit de même avec les collaborateurs du président de la République qui démissionnent les uns après les autres. Là, d'ailleurs, Mediapart doit sortir quelque chose encore tout à l'heure. L'affaire Benalla provoquait une implosion du cabinet de l'Élysée. Et je crois que le pouvoir est aujourd'hui à l'agonie.
Parlons-en. Ouais. Dans son rapport, la vice-présidente du Sénat, la centriste Valérie Létard, centriste, hein, affirmait manquer d'éléments pour trois des plus hauts collaborateurs du président, Alexis Kohler, Patrick Strada et le général Lavergne. Les Républicains et les socialistes n'ont pas suivi ces recommandations. Au fond, est-ce que vous n'êtes pas tous dans un jeu politique ?
Non, on n'est pas dans un jeu politique. Enfin, pardon, mais l'affaire Benalla est extrêmement grave. Ça dit beaucoup de la manière dont Emmanuel Macron conçoit le pouvoir. Voilà. Et à partir du moment où vous avez son plus proche collaborateur qui s'est livré à des violences, qui a menti devant une commission d'enquête parlementaire, eh bien, je crois que ça pose des problèmes de démocratie. Et Macron est aujourd'hui tout seul. La plupart de ses collaborateurs ont quitté le navire en lien avec cette affaire Benalla. Il faut quand même rappeler que si M. Castaner a été nommé ministre de l'Intérieur, c'est parce que cette affaire a provoqué la démission de M. Collomb, qui peut-être a senti le coup venir. Donc, il est aujourd'hui temps que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et encore une fois, que M. Benalla à répondre de ses actes devant la justice française.
Jordan Bardella, dans le Figaro ce matin, Richard Ferrand reproche à l'opposition d'organiser une sorte de danse du scalp autour du président.
Non, il n'y a pas de danse du scalp. Il y a un collaborateur du président de la République qui s'est livré à des violences et qui s'est livré à des actions
mais
qui sont inadmissibles.
Mais on parle aussi des trois plus hauts collaborateurs du président.
Inadmissibles.
Hein,
par là, évidemment, semble-t-il concerner l'ensemble des collaborateurs du président de la République. Je dis l'ensemble parce qu'il n'en reste plus, grand-chose aujourd'hui. Et encore une fois, la justice doit aujourd'hui trancher sur l'affaire Benalla.
Jordan Bardella, cette semaine, Christophe Castaner était convoqué devant les sénateurs. Il s'est défendu de tout laxisme face aux casseurs. J'imagine qu'il ne vous a pas convaincu.
Absolument pas. Et ce gouvernement a fait preuve d'une impunité. S'en est pris à des gilets jaunes qui manifestaient pacifiquement. Parce que je rappelle que dans ce mouvement, vous avez 90% des gens qui sont descendus dans la rue pour réclamer un peu plus de dignité, pour réclamer la paix fiscale et qui ont été maltraités par le pouvoir, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan sécuritaire.
Mais vous avez laissé entendre que Christophe Castaner avait laissé faire les casseurs.
Oui, et en même temps, les milices d'extrême gauche qui viennent à chaque fois dans l'ensemble des mouvements sociaux pourrir
aussi,
ces mouvements. Oui, d'accord. Enfin, vous admettrez que les tags anarchistes sur l'Arc de Triomphe, sur le mur de l'Assemblée nationale, ou sur la plaque de Xavier Jugelet est plutôt en lien avec l'extrême gauche.
Mais le renseignement parle de l'ultra droite aussi.
Et ces milices d'extrême gauche bénéficient aujourd'hui d'une impunité totale de la part des services de l'État. Moi, je vous renvoie aux nombreux témoignages de syndicats de policiers qui ont dit « Nous pouvions intervenir, mais nous n'avions pas les ordres d'intervenir. » Donc le problème, il est politique, et je crois que le limogeage du préfet de police Michel Delpech est en fait un règlement de compte en lien avec l'affaire Benalla, puisque le préfet avait mis en cause l'exécutif dans l'affaire Benalla, et en réalité, c'est à Castaner de prendre ses responsabilités. Et on voit que ce gouvernement est totalement impuissant face à la question des violences, que ce soit face au type d'extrême gauche, que ce soit face aux émeutes dans les...
Mal
que
à les
ce
condamner
soit
cela.
Face aux émeutes en banlieue ou que ce soit face à cette insécurité du quotidien. Concernant l'ultra-droite, je vous rappelle que Manuel Valls, à l'époque, avait su dissoudre ces groupuscules ultra-violents. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui avec les milices d'extrême-gauche ?
Pourquoi vous ne les condamnez pas aujourd'hui ?
Mais je condamne toutes les formes de violence.
Ah non, vous ne parliez pas d'ultra-droite.
Je condamne toutes les formes de violence. Maintenant, je constate que les Black Blocs, que ceux qui appellent à taper du flic sur les pages Facebook quelques jours avant les manifestations, sont en lien effectivement avec l'ultra-gauche et avec les milices antifa. Pourquoi est-ce qu'on ne les dissout pas ?
Jordan Bardella, voilà. Les soldats de l'opération Sentinelle sont mobilisés demain. Samedi dernier, le syndicat UNSA Police regrettait que les CRS en fait, soient mobilisés pour surveiller les bâtiments stratégiques au lieu d'assurer le maintien de l'ordre. Vous n'êtes pas d'accord avec eux ?
Je pense que ce gouvernement est en réalité totalement incapable de répondre aujourd'hui à la montée des violences. Le rôle d'un militaire est de combattre des ennemis de la France, qu'il s'agisse d'ennemis intérieurs sur la menace terroriste ou des ennemis à l'extérieur pour Daesh, et absolument pas de faire du maintien de l'ordre. Enfin, si demain, des militaires sont pris à partie par des milices antifa qui... Oui, par des milices antifa, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire du maintien de l'ordre, parce que ce n'est pas le boulot des militaires. Le boulot des militaires, c'est de défendre la France face à ses ennemis. Bon, le boulot d'un policier ou d'un gendarme, c'est effectivement le maintien de l'ordre. Et pardon, mais l'armée dans la rue, ça s'appelle la gendarmerie. Donc, ce n'est pas une bonne solution, et nous croyons qu'il faut aujourd'hui donner les ordres à nos policiers, à nos gendarmes, d'intervenir lorsque ces milices viennent tout casser dans les centres-villes, parce que ça pénalise les commerçants et ça pénalise en premier lieu les gilets jaunes qui manifestent de manière pacifique pour réclamer une baisse des impôts, plus de pouvoir d'achat et pour être représentés.
Jordan Bardella, vous craignez un nouveau débordement de violence demain. Vous ne croyez pas que ça aiderait si vous lanciez un appel à ne pas manifester ?
Mais le problème n'est pas la manifestation. Le problème, c'est le laxisme à l'égard des casseurs.
Mais ce que sont devenues les manifestations aussi.
Oui, enfin, vous savez que Paris est quand même un cas particulier. Moi, je continue de voir en province, notamment dans nos territoires ruraux, beaucoup de manifestations qui, le week-end, se passent très bien.
Mais après vous être indigné contre la flambée de violence de samedi dernier, vous refusez de lancer un appel à ne pas manifester demain ?
Ce qui m'indigne, c'est l'impuissance avec laquelle le gouvernement traite ces violences. Et donc, il
mais
faut
vous refusez de lancer un appel à ne pas manifester.
Manifester, c'est pas un droit constitutionnel, mais c'est une liberté dans notre pays. Et donc il faut aujourd'hui permettre les manifestations dans le calme. Il faut surtout apporter une réponse politique aux gilets jaunes, qui sont les revendications d'une immense majorité de Français. Je le disais, sur la paix fiscale, sur la politique de bon sens, sur une meilleure représentation, parce que c'est ça le problème. Je veux dire,
Jordan
si
Bardella.
L'Assemblée nationale était représentative de l'ensemble des sensibilités politiques et n'était pas, si vous voulez, une écrasante majorité à la botte du pouvoir, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu la crise des gilets jaunes et peut-être qu'on pourrait débattre des questions de justice fiscale, de justice sociale, des questions de sécurité dont plus personne ne parle, qui intéressent nos compatriotes.
Jordan Bardella, tout à l'heure, vous accusiez Christophe Castaner d'avoir laissé faire les casseurs.
Oui, je crois qu'ils ont laissé faire.
Si c'est votre manière de penser, on pourrait tout aussi bien vous soupçonner d'encourager la violence pour nuire au gouvernement.
Non mais, c'est hallucinant. C'est au gouvernement qu'il faut demander des comptes, madame. Nous ne sommes pas au pouvoir. Nous avons un rôle d'opposant politique et je crois que nous le jouons plutôt bien depuis le début de cette crise parce que nous avons proposé des solutions.
Mais
nous avons
proposé une
sortie
de
crise. Mais évidemment que j'appelle au calme. Mais tant que vous ne mettrez pas hors d'état de nuire les fauteurs de trous professionnels dans notre pays qui viennent à chaque manifestation pour en découdre, pour s'en prendre aux forces de l'ordre et pour casser sur leur passage, eh bien tout cela va continuer. Parce que ça ne date pas d'hier, ça fait des années que dans notre pays, à chaque manifestation, c'était vrai le 1er mai, où 1200 Black Blocs sont descendus dans les rues pour tout casser et où nos policiers n'ont pas eu l'ordre. Donc soutien à nos policiers, soutien aux Français qui manifestent de manière pacifique, mais il faut aujourd'hui faire preuve de la fermeté la plus totale à l'égard des casseurs et à l'égard des milices qui descendent dans les rues à chaque manifestation pour tout casser et pour s'en prendre aux policiers.
Merci Jordan Bardella.
Merci à vous.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Et puis à noter que ce dimanche, le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, sera l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1, CNews, Les Échos. Entretien à suivre en direct dès 10h sur notre antenne.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. Nikos.
Et à 8h30, l'essentiel de l'info, la guerre ouverte entre l'exécutif et le Sénat au sujet de l'affaire Benalla. Qui a raison? Qui a tort? Réponse avec le constitutionnaliste Olivier Duhamel. Dans un instant.
Belle matinée à tous sur Europe 1, il est 8h27. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker et la revue de presse. Le mot-clé ce matin, David, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Le mot-clé, c'est ronflement.
Ronflement.
Si vous lisez Le Parisien aujourd'hui en France, vous découvrez que les femmes, à partir d'un certain âge, ne sont pas en reste et qu'elles ronflent une minute de plus que les hommes.
Pourquoi le seraient-elles ?
Je vous le dirai.
8h40, attention, imitation en vue, il ne ronronne jamais, il ne ronfle pas. Il est sur le pont Nicolas Canteloup et sa revue de presse.
Mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo, Nikos.
Ronfler, Lolo, ou pas?
Malheureusement, oui. C'est un pays de lumière, la France, aujourd'hui. Franchement, le pays de la lumière, parce qu'il doit faire très très beau. Je dis il va, parce que nous sommes encore sous des brouillards dans la vallée de la Loire, l'Île-de-France, la Sarthe, la Mayenne, le Loiret, autant de régions. Les brouillards sont très très épais, parfois visibilité inférieure à 50 mètres. Mais promis, ils vont s'échapper par le haut, c'est-à-dire que c'est le soleil, la hausse des températures qui va mettre tout ça en ordre. En ce qui concerne la journée, donc elle s'annonce rayonnante. Profitons-en, ça ne va pas trop durer. Dimanche et lundi seront des journées beaucoup plus nuageuses sur la moitié nord. Les températures maximales 17 à Lille, 18 à Paris, Cambrai, Belfort, Colmar, Nice, Bourges, Limoges, Avallon, 19-20, 21 à Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Lyon, 22 à Marseille, 24 degrés à Nîmes. Voilà pour la journée des Lumières.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le vendredi 22 mars, toute l'actualité à 8h30, avec vous Nikos Aliagas.
Guerre froide entre l'Élysée et le Sénat, les sénateurs ont décidé de transmettre à la justice les dossiers de trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. Hier, le Premier ministre a refusé d'assister à la séance de questions des sénateurs au gouvernement. Richard Ferrand, lui, ne participera pas à une conférence commune qui était prévue aujourd'hui à Sciences Po Lille avec Gérard Larcher. Pour Olivier Duhamel, constitutionnaliste, les deux camps sont dans leur bon droit. On écoute.
Chacun a raison dans cette histoire, parce que le gouvernement a raison d'invoquer la tradition de préservation de l'Élysée d'un contrôle parlementaire. Le président de la République n'est pas responsable devant les assemblées. Donc, par extension et tradition, ses collaborateurs ne sont pas responsables devant des commissions d'enquête. Et le Sénat a raison de son point de vue, mais nous voulons étendre notre pouvoir d'enquête. Aucune disposition constitutionnelle ne nous l'interdit expressément, et donc nous avons raison de le faire. Donc en droit, chacun peut soutenir son point de vue, et en politique, c'est une confrontation. Cela dit, elle durera ce qu'elle durera. C'est-à-dire que je vous annonce sans trop de risque que dans les semaines qui viennent, tout cela s'apaisera.
Olivier Duhamel avec Paul Lassène. L'impunité zéro exigée par Christophe Castaner au nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement. Demain, nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. On ne sait pas si Paris sera une nouvelle fois visée ou si d'autres villes seront ciblées. Plusieurs communes ont pris les arrêtés pour interdire les manifestations. Le successeur d'Édouard Philippe à la mairie du Havre, Luc Lemonnier, a démissionné de ses mandats hier soir après la diffusion de photos de lui, nu, par une femme qui se dit victime de cet homme de 50 ans, père de 4 enfants. Il affirme qu'il a démissionné pour protéger sa famille. En Grèce, une grenade a été lancée ce matin dans la cour du consulat de Russie à Athènes. Elle n'a pas explosé. L'engin a été jeté par une personne à moto. Et puis un mois après le début de la contestation, les Algériens entendent rester mobilisés. Nouvelle manifestation aujourd'hui pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Un mot de football, nos bleus champions du monde affrontent ce soir la Moldavie. À 20h45, c'est le coup d'envoi de la campagne de qualification pour l'Euro 2020.
Europe 1. Nico Saliegas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse.
Bonjour David Abiker. À la une des journaux ce matin, une guerre et des soldats.
Alors la guerre, elle est symbolique, mais elle occupe bien les journaux. Benalla, guerre froide entre l'Élysée et le Sénat, titre Ouest France. Sénat-Élysée, c'est la guerre, choisit la dépêche du Midi. Et dans le Midi Libre, Jean-Michel Servent parle d'une guerre entre les anciens et les modernes. En suggérant au parquet de poursuivre plusieurs collaborateurs du président de la République, les sénateurs ont volontairement franchi la ligne rouge et déclenché l'arme atomique contre l'exécutif. Je ferme les guillemets. Vous avez les conflits politiques et puis à la une des journaux, il y a les soldats français de l'opération Sentinelle mobilisés à la veille de l'acte 19 des Gilets jaunes. L'humanité s'indigne devant, je la cite, « l'inacceptable bruit de bottes ». Comme si les soldats déployés demain sur les points fixes menaçaient plus la paix et la liberté que les Black Blocs. Tiens, tiens, les bigots du droit de l'homisme peuvent hurler, ironise Yves Tréhard dans son édito du Figaro. Il convient de ne pas inverser la charge de responsabilité sur les violences. Enfin, les pompiers. Oui, les pompiers lancent un SOS. Nos soldats du feu sont fragilisés, sursollicités et de plus en plus agressés, s'alarme Libération. Alors la presse voit donc la France en kaki ou en guerre ce matin. Pourtant, cette journée mondiale de l'eau, l'UNICEF publie un rapport qui vient relativiser nos mauvais rêves de guerre civile et nous apprend que sur les théâtres de guerre, les vraies guerres, le manque d'eau tue plus d'enfants que les soldats et les bombes.
Vous parlez de guerre, David, et c'est quasiment l'état de siège à Nice cette fois-ci.
Nice matin parle en tout cas d'état d'urgence pour la cité azuréenne, alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à y recevoir demain le président chinois. Le quotidien décrit les restrictions de circulation jusqu'au positionnement de tireurs d'élite à Beaulieu-sur-Mer, où aura lieu dimanche un dîner inédit entre les deux chefs d'État. Nice où les gilets jaunes n'auront pas droit de manifester car on redoute là-bas, comme à Paris, des émeutes ou de la casse. La casse, on la retrouve en photo dans Paris Match, à la une duquel on retrouve notre président, l'air comment dire, allez, un poil teigneux. À l'intérieur s'étend sur une double page la photo prise samedi dernier sur les Champs-Élysées d'un homme en noir, décochant à 50 cm du sol. En pleine extension, un coup de pied de kung-fu de ninja, un autre homme en noir. C'est à peine si un gilet jaune tenu dans la main du karaté-casseur permet de le distinguer du CRS. Ça, c'est pour la photo. Pour le choc des mots, un riverain a trouvé la formule. Les samedis de manif sur les Champs-Élysées, c'est un peu Platoon sans la jungle et Beyrouth sans les snipers. Alors comment la réparer, cette France qui fabrique de pareilles images de guerre civile ?
Réparer la France. Tiens, c'était la une d'un nouveau magazine d'exploration appelé Zadig.
Exploration de la France profonde. Il sort cette semaine proposant de prendre le temps d'ausculter le pays, loin des clichés et des photoshocks. l'époque, en prenant le temps. Et puisque c'est la journée mondiale de l'eau, je vous le disais, on prendra le large, à bord d'un chalutier, pour accompagner des marins pêcher la langoustine. Rude métier, rudement bien décrit par le journaliste Arthur Fryer Lallet, qui écrit des choses comme ça, je le cite. Les bobines des chaluts descendent dans l'océan. C'est un balai de cris, de chaînes et de poulies sur le pont, jusqu'à ce que les chaluts disparaissent enfin dans l'eau noire. Dans cette fresque du difficile métier de pêcher, il est question de nuits sans sommeil et de ronflement des moteurs, ce qui m'amène sans complexe à la publication en exclusivité d'une enquête dans Le Parisien aujourd'hui en France sur un fléau face auquel nous sommes tous en conflit, nous aussi. Conflit plus ou moins ouvert, Nikos.
Le ronflement. Vous ronflez, David ?
Ma femme dit que je ronfle, ouais. Et c'est ce que confirme le journal sur la base d'une enquête de WeSings, société spécialisée dans les objets connectés réalisés à l'occasion de la journée internationale du sommeil.
Là, c'est ma femme.
Ça, c'est là.
Mais non.
Vous aurez des problèmes.
Le Parisien aujourd'hui en France, en cette journée nationale du sommeil, en tire 4 enseignements de cette étude. 3 ronfleurs sur 4 sont des hommes. Mais ils ont une excuse, l'étroitesse de leur larynx et la pomme d'Adam qui rendent plus difficile le passage de l'air. Ceci dit, les femmes en vieillissant perdent de l'élasticité dans les muqueuses et rattrapent les hommes en matière de ronflement. À partir de 75 ans, elles ronflent 1 minute de plus par nuit. Vous avez votre explication, Nikos.
Voilà.
Deuxième enseignement, plus vous êtes gros, plus vous ronflez car vos tissus mous s'infiltrent de graisse, eux aussi, et compliquent le fonctionnement des voies respiratoires. Troisième enseignement, il y a plus de gros ronfleurs à la campagne qu'à la ville. Ça peut s'expliquer par la moyenne d'âge moins élevée en ville ou certaines allergies. Enfin, dans le classement international des villes qui ronflent sur la base des mesures effectuées à partir des capteurs de ces objets connectés, les Parisiens se placent devant New York, mais loin derrière les Romains qui sont premiers. C'est ce qu'on appelle être en polochon position, pardon.
Et puis, je vais vous dire quelque chose, que vous ronfliez ou pas, votre femme vous aime quand même.
Puis du moment que je me réveille, je pense que c'est ça qui compte.
Et elle vous supporte. Voilà, tout va bien. Merci David Abiker pour la revue de presse.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la revue de presse. Nicolas Canteloup avec Julie, l'infernal showman de ce 7-9 arrive pour vous faire plaisir. Il fait beau, regardez. Il y a du soleil peut-être près de chez vous. Ça va continuer avec Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Avec Nikos Aliagas également sur Europe 1. Il est 8h39. Il est 8h41.
Pour votre plus grand plaisir, Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presque.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ne bougez pas Nico, c'est à vous pour le titre principal de l'actu.
Ouais, ma chère Julie, l'actu surround de ce matin, c'est bien sûr Luc Lemonnier, le maire du Havre, nous en avons parlé, qui a dû démissionner pour avoir envoyé des photos de lui, nu, à plusieurs femmes. Elles ont vu le Luc de Luc.
Nico, vous faites mieux d'habitude.
Alors, pour se justifier, c'est facile, le maire du Havre, dans un premier temps, a revendiqué d'être libertin.
Bonjour. Ah, quand l'actualité vous rattrape. Bonjour, c'est Dominique Lormanti.
Bonjour,
Madame Julie.
Bonjour.
Rebonjour, cher Nikos.
Bonjour.
Oui, parce qu'on vient de se quitter. On était la même soirée il y a quelques heures. Écoutez, j'entendais votre matinale avec plaisir. Je me disais, Luc Lemonnier, qui est libertin et qui envoie des photos de lui à Walp. Castaner qui roule des pelles à des filles en boîte. Je me demande si je vais pas reprendre la politique.
Alors, monsieur Strauss-Kahn, c'est choquant quand même, hein. Avouez.
Évidemment, faire des cochonneries passe encore, mais les faire au Havre, c'est vraiment dégoûtant.
Oh, s'il vous plaît.
J'aimerais, s'il vous plaît, féliciter monsieur Abiker pour sa revue de presse où il a abordé le ronflement. Et j'ai appris des choses, j'ai compris. Les femmes perdent de l'élasticité dans les muqueuses en vieillissant.
Oh,
je me demande si cette chronique ne vaut pas celle de monsieur Mbida. J'aime vos chroniques.
Tiens, vous parlez
de... Je vois que monsieur Aliagas a griffonné toutes ces informations sur un bout de papier. Vous griffonnez, monsieur les gars.
Je griffonne.
Bon, est-ce qu'Edouard Philippe peut nous réagir, oui, là, parce qu'on a quand même parlé du Havre, là, hein. C'est votre successeur qui est mis en cause, en plus, hein, monsieur Philippe.
Oui. Bonjour, madame Julie. Est-ce qu'on peut reprendre peut-être un petit peu de sérieux?
Oui, on compte sur vous.
Un petit peu de hauteur. Alors, au sujet de ces photos de mon successeur nu. Bon, déjà, j'ai Castaner, mais non, le Monnier, je vais pas passer ma vie non plus à engueuler mon entourage à cause de leur braguette. Je me demande, c'est quoi? C'est quoi la prochaine étape? Des photos de Bruno Le Maire déguisé en soubrette, hein? Nicole Belloubet qui fouette Jacqueline Gouraud en porte-jartel avec une spatule, hein? comme si j'avais pas assez d'emmerdes comme ça.
Bon, allez,
je rappelle que nous, on est quand même samedi.
Bon, ben, on vous laisse à vos emmerdes alors. Merci, voilà. Monsieur le Premier ministre. Merci. Bon courage. Hein. Demain, c'est donc l'acte 19 des Gilets jaunes. C'est une journée à risque. Hein. On est en ligne avec un Black Bloc qui a accepté de témoigner. Bonjour, monsieur. Quelles sont vos motivations? Dites-nous.
Oui, bonjour, madame la journaliste du Grand Capital. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kevin Punk. Oui, je suis un black bloc. Alors, pourquoi détruire des vitrines du mobilier urbain? Eh bien, pour que l'État écoute enfin nos revendications. Nous voulons, nous réclamons, nous demandons la démission de Christophe Castaner.
Ah, carrément.
Oui, et d'ailleurs, avec mes camarades, mes compagnons, devrais-je dire révolutionnaires, qui disent merde à l'État répressif et bourgeois, nous condamnons plus que jamais l'utilisation des militaires de l'opération Sentinelle. Alors je le dis, rendez-nous la police compréhensive et compétente que nous avions du temps béni où le magnifique Gérard Collomb était aux manettes ministre de l'Intérieur. Hasta la Victoria, camarade Black Bloc.
Bon, écoutez, ça suffit, monsieur Collomb, on vous a reconnu. Allez, on vous laisse. Au revoir. C'était parfait, là, cet effet de voix. Ah ben oui, on vous a reconnu. En tout cas, demain, Christophe Castaner joue gros. Il ne doit y avoir aucun débordement. On est en ligne avec la ministre de l'Intérieur. Monsieur Castaner, vous nous entendez?
Michel! Michel! T'en penses quoi de mon nouveau système de basses? Les basses! Là, bien. Je l'ai testé avec Muriel Pénicaud, ça lui a fondu ses lunettes.
Monsieur Castaner, on vous entend là, hein?
Michel!
On est là, hein?
Ouais, ouais. Écoute, tu veux goûter? J'ai inventé un nouveau cocktail. Attention, c'est fort. Hein. Je l'ai appelé le LBD. Tu prends rien qu'un shot et tu vois déjà plus clair.
Monsieur Castaner, on vous entend, vous êtes sur Europe 1 là.
Attends,
bonjour.
Ça cause.
Monsieur Allô. Castaner.
Allô.
On est sur Europe 1.
Ah merde, oui. Pardon. Oui, excusez-moi. Madame Julie, je suppose.
Oui, c'est ça.
Oui, voyez que mes services de renseignement sont efficaces. Écoutez, pardonnez-moi, j'ai l'habitude de travailler en musique, ça m'aide à réfléchir. Écoutez, je travaille, vous savez que nous placerons, vous devez être au courant sur votre chaîne antenne généraliste, des militaires de l'opération Sentinelle devant les bâtiments sensibles. Et pour plus de sécurité, j'ai demandé à ce qu'on pose également le porte-avions Charles de Gaulle pile au milieu des Champs-Élysées.
Oui.
Évidemment, comme je pense que s'il pleut, il ne pleuvra pas assez, il risque de pencher un petit peu d'eau, un petit peu du fait du manque d'eau.
D'accord. En tout cas, chacun redoute encore des actes violents, même les gilets jaunes d'ailleurs. Hein. Tenez, prenons Éric Drouet. Il en a marre, il en a ras-le-bol. Sa maison et sa voiture ont été vandalisées. Il a immédiatement porté plainte.
Porter plainte. Monsieur Drouet,
ben oui.
À la police. Eh bien écoutez, bravo, je vois que quand on a peur pour sa petite maison et sa petite voiture, on est bien content de la trouver, la police. Alors, monsieur Drouet, on fait moins le mariole, hein, on fait sa petite chochotte, dirais-je. Hein, on ne sait pas se défendre tout seul, monsieur Drouet.
Allons, allez, monsieur Castaner, ça va. Vous n'avez plus le droit à l'erreur, d'ailleurs. Hein. Vous n'allez pas en plus provoquer les gilets jaunes.
Ah mais si, je vais les provoquer. C'est ma stratégie, d'ailleurs, madame Leclerc. J'énerve les gilets jaunes, comme ça, ils vont vouloir tout casser. Et alors là, je vais pouvoir prouver que je suis un grand ministre de l'Intérieur en les empêchant justement de tout casser. Vous voyez que c'est réfléchi, il y en a là-dedans.
Oui, mais enfin, ça fait 18 samedis qu'ils cassent tout, hein, sans que vous empêchiez quoi que ce soit.
Oui.
Ah.
C'est pas faux. Vous voulez dire qu'il y aurait une infime chance qu'ils gagnent encore samedi prochain?
Ah.
Bon, Éric Drouet, donc je m'excuse, je vais venir la repeindre, votre maison.
Dites-moi, c'est tendu pour vous en ce moment. Hein. Aujourd'hui, le magazine Closer révèle que vous aviez une liaison depuis 3 ans avec la jeune fille que vous avez embrassée en boîte l'autre fois.
Oui, putain, des emmerdes.
Vous
permettez que je m'exprime et que je m'adresse directement à ma femme?
Mais je vous en prie, allez-y.
Sandra. Pardon, Hélène.
Non.
Hélène, tu vas rire. Enfin non, tu ne vas pas rire, mais tu vas être étonné. Enfin, non, tu ne vas peut-être pas l'être, mais bon, c'est signe que je suis un homme politique de référence. Les plus grands l'ont fait.
ont eu ce genre d'attitude. Monsieur Chirac, Monsieur Giscard d'Estaing, Monsieur Sarkozy, j'ai un destin de président, mon poussin. Si tu me laisses pécho des gonzesses, tu peux finir première dame à l'Élysée. Première cocu, première... Enfin, je marche, voyez, dans les pas de François Hollande.
Oui, c'est ça. Bon, on vous laisse. Hein. Merci, Monsieur Castaner. Le Sénat a transmis à la justice les dossiers sur Alexandre Benalla, Vincent Crase et Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, pour suspicion de faux témoignages devant la commission d'enquête sénatoriale.
Ah, c'est qui le patron? Hein, c'est qui Raoul?
Gérard Larcher, bonjour. Raoul. Dites donc, c'est votre semaine, hein, vous, les auditions de Christophe Castaner, de Bruno Le Maire, transmission des dossiers Benalla à la justice, on parle de vous, là.
Hein. J'en connais un qui doit bien avoir les jetons. Hein. Il doit faire moins le malin à l'Élysée. On commence à le trouver moins rigolo, hein, le gros GG. Hein. T'as voulu me supprimer au Sénat? Un mot supprimer mon Sénat? Eh ben, tu me manques de respect. Mais quoi? Hein, Macron, you talking to me? You talking to me? You fuck my sénateur? You talking to me? You fuck my commission?
En tout cas, c'est une déclaration de guerre à l'Élysée.
Hein, je veux mon neveu. Hein, l'Élysée nous envoie des types nous mentir, Madame Julie, les yeux dans les yeux. Et en plus, faudrait pas se vexer. Alors oui, on montre les muscles. Voilà, on montre les muscles. Là, on répète même un AK néo-zélandais.
Oh là là, oh là.
Oui, un AK qu'on va faire devant l'Élysée. Ah, kamate, kamate, kamate.
Oh là là, non, s'il vous plaît. Bon.
Ah, kamate, kamate.
Merci. Merci beaucoup. Allez, pour terminer, on fait un dernier point sur l'actualité et partir aux Champs-Élysées. On va redouter les manifestations demain encore, hein, là-bas.
Oui, oui, bonjour ma chère Julie, ici Pierre Fulin en direct des Champs-Élysées, du Champs-Élysées Square Garden, pardonnez-moi, où on se prépare, vous l'avez dit, pour l'affrontement de demain avec, dans le coin droit, Christophe Castaner, 1m80, 95 kg, très beau gabarit, dont 40 kg de gourmette. Le David Guetta de la place Beauvau, l'homme aux platines de l'intérieur, le Charles Pasqua du Macumba Night. Et dans le coin gauche, eh bien ils sont nombreux, hein, ils ont des cagoules noires, des bâtons, ils sont bien 30 000, et ils n'ont pas l'air contents. Si les muscles, si les musclés du studio peuvent me filer, s'il vous plaît, un coup de main. Nicolas Barré, Jean-Michel Apathy, David Abiquaire, de l'aide, s'il vous plaît.
David Abiquaire, aidez-le, faites quelque chose.
Alors, excusez-moi, mais j'ai lu dans le Figaro que ma Lexus est garée en double fil et dans Libération, il est indiqué que je dois y aller fissa.
Et vous, Nicolas Barré, faites quelque chose.
J'aimerais bien, mais c'est pas mes affaires de sport. Et puis ma mère m'a engueulé parce que si je casse mes lunettes dans une bagarre...
Oui, bon, écoutez, reste vous, Jean-Michel, allez.
Aïe. Non, il me tire par les cheveux. Non, pas les cheveux, les Black Blocs. Pas les cheveux, les Black Blocs.
Ah, il est bon pour bien finir la semaine. Philippe Cabrivière, les auteurs de Nicolas Canteloup, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. La revue de presse quotidiennement avant 9h avec Julie et El Maestro Canteloup. Vous finissez la semaine, ce vendredi, avec quel thème, ma chère Wendy Bouchard, à partir de 9h sur Europe 1?
Eh bien, la veille de ce grand rassemblement des Gilets jaunes, on va revenir sur la présence de l'armée, la présence de la force sentinelle. Est-ce que c'est une bonne mesure pour vous? Vous êtes 72% à nous répondre oui sur la page Facebook d'Europe 1. C'est dire que le gouvernement a répondu à une certaine exaspération de la population. Alors, qu'en pensent les militaires qui seront mobilisés? Qu'en pense la police qui s'associe au maintien de l'ordre? Qu'en pensent les politiques? Eh bien, ils seront en studio avec nous et vous n'hésitez pas à témoigner au 39-21.
Et les pompiers?
Et évidemment, et les pompiers, voilà.
De plus en plus agressé.
Tout à fait. Donc on va revenir sur ce dispositif dans son intégralité. Puis je vais vous poser une petite question. Quel est l'organe qui pèse qui a la taille d'un drap de lit, qui pèse deux fois plus que le cerveau?
Un organe, vous voulez dire
du corps humain,
ouais.
C'est
la peau.
C'est
bravo,
la peau.
David.
Bravo David. C'est la peau. Grande exposition au musée de l'homme de la peau.
Drap de lit, si on l'éteint.
Voilà. Et qui est organe absolument fascinant dont on prend pas assez soin finalement. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet entre 10h et 11h. Quelle peau aller, hein.
Mais regardez la peau de Nico. Et
ben voilà.
C'est tout bronzé.
C'est un cas d'école, votre peau, monsieur.
Je vous dis pourquoi. Un moindre café pendant 10 minutes, je suis comme Jean-Michel Apathy sur une terrasse où il fait beau. Et je deviens méditerranéen. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Non, on n'est pas tous égaux, là-dessus.
Ça fait vanner Canteloup. C'est bon. J'ai une peau de bouc.
Voilà. Merci, Mbappé. Justement, le soleil, on va en parler avec notre ami Laurent Capoil dans un instant. Puis il y aura également l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.
Tout de suite.
Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nicolas Saliagas, mais tout de suite, c'est Laurent Cabrol qu'on entend pour la météo.
Eh oui,
c'est la Sainte Léa et c'est ensoleillé aujourd'hui, Laurent.
Ah bah oui, dites-moi, alors là, vous allez pouvoir vous bronzer, chers amis. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée extrêmement ensoleillée, mais surtout extrêmement douce, en dépit des apparences. Nous avions encore des gelées ce matin, entre moins 4 et plus 5. Et en ce moment, les températures commencent à remonter. Nous atteindrons dans l'après-midi 16 à 24. 24 degrés dans la région nîmoise, 22 à Marseille, 21 à Toulouse et Lyon. 20 degrés...
24 à Nîmes. C'est l'été.
Ouais. Oui, c'est l'été. Ah c'est un mois de juin, c'est bien. 18 à Paris, à Belfort, 16 à Lorient. Ce sont des températures très agréables, mais je dis tout de suite à nos amis qu'il faut en profiter parce que la fraîcheur n'est jamais très loin dans les jours qui viennent. Donc nous allons aujourd'hui avoir une journée presque idéale. En ce qui concerne les brouillards, ils sont encore présents sur une petite moitié nord, mais ils vont se disperser, je le disais tout à l'heure, donc aucune inquiétude à avoir. Et vous allez passer cette journée fort sympathique. En tout cas, on vous la souhaite.
Merci Laurent Cabrol. Je vous dis à lundi et à tout à l'heure.
Nous sommes le vendredi 22 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Le nouveau calendrier pour le Brexit. À 8 jours de la date couperet, l'Europe offre 2 options de report à Londres. Si les députés ne votent pas l'accord, ce sera le 12 avril. S'ils le votent, ce sera le 22 mai. Concrètement, ça veut dire que c'est désormais aux Britanniques de régler eux-mêmes leurs problèmes, comme l'a affirmé hier soir le président de la République, Emmanuel Macron. Écoutez, c'était dans le journal de 8h.
L'Union européenne, de manière très claire, a à faire face à une crise politique britannique. Les politiques britanniques sont dans l'incapacité de mettre en œuvre ce que le peuple leur a demandé. Mais cette crise, elle est britannique. En aucun cas, nous ne devons rester bloqués dans cette situation. C'est pourquoi nous avons donné 2 échéances. Nous sommes organisés et donc nous ne subirons pas. Mais maintenant, il appartient aux Britanniques de lever les ambiguïtés qui sont les leurs.
Tension maximale à la veille d'un nouveau samedi des Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'a plus le droit à l'erreur. Il a promis l'impunité zéro pour ne pas voir se reproduire les scènes de violence de la semaine dernière. Un discours entendu avec prudence par les policiers comme Fabien Van Helmerich, secrétaire général du syndicat Alliance.
Il y a eu un discours d'extrême fermeté. Les discours, évidemment, sont plaisants à écouter. Maintenant, nous, on attend les actes. Il y a des directives de prise. Il y a beaucoup plus de mobilité, par exemple, pour nos collègues qui vont faire du maintien de l'ordre. Heureusement, on va remplacer les collègues qui font les plantes vertes aujourd'hui par des sentinelles, ce qui permettra de recentrer le policier sur son cœur de métier et enfin faire du vrai boulot de flic. On demande à voir et dès samedi, on appréciera.
Tous derrière les Bleus ce soir en Moldavie, on retrouve nos champions du monde qui entament leur course pour la qualification à l'Euro 2020. Et même si la victoire paraît presque jouée d'avance, attention, ça se passe jamais comme ça au football. Et le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, le rappelle, pas question de relâcher la pression. Écoutez, c'était dans le journal de 7h.
On sait qu'avec ce statut de champion du monde, on est attendu partout et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et le match est de nature à être un match piège, à nous de nous faire violence mentalement et répondre aux exigences du haut niveau et de gagner ce match.
À 7h45, je recevais une écrivaine, Delphine de Vigan, pour son nouveau roman Les Gratitudes, avec un thème central qui nous touche tous, qui parle à tout le monde, dire les choses à ceux qu'on aime avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez Delphine de Vigan à ce micro.
On passe notre journée à dire merci, merci pour le sel, merci pour le renseignement, etc. Et est-ce qu'on remercie vraiment les gens qui ont compté pour nous, qui ont joué un rôle déterminant dans notre vie ? C'est pas facile de dire merci, parfois on n'a pas le temps, c'est trop tard, parfois on ne sait pas exactement comment le dire, et ça n'est pas forcément simple non plus de recevoir des merci quand ils sont un peu, justement un peu chargés d'émotions. On n'est pas toujours très à l'aise avec la gratitude quand elle est exprimée.
Les Gratitudes de Delphine de Vigan, publiées aux éditions Jean-Claude Lattès. Il y a des merci historiques. Il y a merci pour ce moment, merci pour le chocolat et merci d'être venu. Voilà. Non, nous on va garder le tout simple. Merci à vous de nous faire confiance.
Merci de vous.
Merci de vous. C'était pas mal celle-là. Bravo aux équipes de la matinale, à la fois les équipes techniques et éditoriales. Merci de votre fidélité. Demain, c'est Bernard Poirette qui vous réveille dès 6h. Quant à moi, j'aurai plaisir de vous retrouver lundi à 6h55 pour le passage de relais avec Mathieu Noël. Bonne journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Profitez de la vie, du soleil. Merci de votre confiance.
Et
prenez soin de vous.
Merci à vous, Nikos.
Avec plaisir. Merci.
Ciao, Nikos. À lundi.
Wendy Bouchard, tout de suite.